When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mai 2010 et c'est l'épisode numéro 35. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Et pour tous ceux qui en ont marre de l'iPhone, de l'iPad, d'Apple et tout ça, vous allez être contents parce qu'aujourd'hui, c'est une émission quasiment exclusivement Google, avec la conférence Google I.O. où ils ont annoncé tout plein de choses. Mais on n'a pas que Google puisqu'on a deux animateurs de talent. Cédric Bonnec, vous connaissez tous, tu vas bien ?
Ça va, très bien.
Et Loïc, qui nous rejoint, ça doit être la troisième fois que tu viens dans l'émission, je ne sais plus exactement.
Deuxième, je pense. Bonsoir à tous. Et en fait, je suis à Paris, ce qui est assez marrant.
Voilà. J'ai vu ça sur... je te suis sur Twitter, bien sûr, et j'ai vu que tu étais sur les Champs-Élysées. Et que tu étais allé dans cette grande exposition Nature Capitale à laquelle j'étais hier. J'ai trouvé bien trop peuplé. Mais...
Oui, c'était un peu peuplé. Mais je suis arrivé vers 2h, je ne savais pas trop. Il faisait beau, donc on est allé se balader là-bas. Ouais. Ouais. Mais c'est sympa Paris, ça manque un peu quand même.
C'est vrai. Pour ceux qui ne le savent pas, Loïc est bien sûr depuis quelques années à San Francisco. Et ça tombe bien que tu sois là, puisque Sismic pour iPhone a été lancé il y a quoi, deux jours à peine ?
Vendredi dernier, absolument. Donc, ouais. Et on est très très content du... En fait, plus précisément, on n'a jamais eu autant de téléchargements d'une appli, et pourtant on en a 6. Donc, dans les premiers jours, c'est incroyable. Mais bon, ça c'est la magie de l'iPhone.
Oui, c'est sûr. Oui. Bah, maintenant, vous êtes sur Android et sur iPhone et partout, et sur le web. Et,
BlackBerry, PC, Mac, iPhone, BlackBerry, Android, et Windows Phone 7 qui arrive aussi, donc...
Le développement est déjà en cours sur 7.
Ah non, mieux que ça, on a déjà une appli qui tourne, dont on commence à faire des démos.
Sublime. Bah écoute, je pense qu'il n'y a pas de meilleure personne pour parler de tout ce dont on va parler aujourd'hui, puisque tu travailles notamment avec Android, comme on le disait. On va parler des mises à jour d'Android et de plein de choses. Avant de faire ça, je vais juste dire un petit bonjour aux gens qui sont dans la chatroom et qui nous suivent en live. Donc merci à vous de nous suivre, c'est très sympa d'être là. Je vois des Cédric qu'on t'aime, etc. etc. je vais également remercier les gens qui nous ont laissé un petit pourboire sur le site de l'émission. Comme vous le savez, il y a un lien sur la droite, vous pouvez nous laisser un pourboire. Et je remercie très grandement Pascal, Mathieu de Yatacast, Pierrick, Francisco, Brigitte, Étienne, alias Progoz. Donc tous ces gens-là qui ont pensé à nous laisser quelques sous sur le site. Ça nous fait extrêmement plaisir et on vous remercie du plus profond du cœur. Et donc on va passer, sans autre transition, à Google I.O., qui est cette grande conférence pour les développeurs que fait Google tous les ans. Si vous vous en souvenez, c'est la conférence à laquelle ils ont annoncé Wave l'année dernière. Et donc, on vous a, à la suite de ça, pris la tête avec Wave pendant quelques épisodes. Tiens, petite question en passant, parce qu'on va parler de Wave, mais est-ce que vous utilisez Wave ? Bon, Cédric, je sais qu'on s'en sert un petit peu pour gérer NoWatch. Loïc, toi, tu t'en sers au quotidien de Wave ?
Du tout, je m'en suis absolument jamais servi et je ne connais personne qui s'en sert. Comme ça, si tu veux, c'est... Voilà.
Mais là, maintenant, tu connais deux personnes.
Voilà. C'est très impressionnant. Le nombre de personnes que je connais qui utilisent Wave vient d'augmenter de manière exponentielle.
Bon, bah écoutez, première annonce de Google I.O., ils ont annoncé énormément de choses, c'est que Wave est maintenant utilisable par tout le monde sans
voilà.
invitation.
Il y en a trois du coup maintenant.
Oh le méchant.
Non mais c'est vrai que moi ma première réaction, ça a été, bah, y a eu deux réactions. Première chose c'est, mais qui n'avait pas encore reçu d'invitation Wave? Parce que j'ai l'impression, moi j'en ai 10 dans ma boîte de réception que j'ai pas utilisée parce que tout le monde en a. Et ma deuxième réaction, c'est que de toute façon, tout le monde s'en fout un peu. Donc, bon.
Mais moi, ce qui me fascine, c'est à quel point Google peut aussi faire des bids. C'est quand même une grande leçon pour les entrepreneurs ou ceux qui aimeraient bien être entrepreneurs. C'est qu'on peut être très, très gros et faire aussi des trucs totalement inutiles.
Et ben, et là, ça en est une preuve. Enfin, bon, on exagère un peu en disant que c'est totalement inutile, mais de là que c'était annoncé. Et moi-même, le premier, j'ai dit, ça a l'air vraiment d'avoir un énorme potentiel et tout. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça n'a pas eu un succès totalement fulgurant, quoi. Mais bon, il y a quand même des grosses, grosses annonces ce coup-ci aussi. Et c'est pas parce que la dernière fois, ils ont annoncé Wave qui s'est planté qu'ils vont se planter cette fois-ci. Et pour moi, l'annonce qu'ils ont faite, la plus importante et qui est véritablement monumentale, c'est cette annonce du Google Chrome App Store. Alors, qu'est-ce que c'est ce Google Chrome App Store? Comme vous en doutez, un App Store, ça a à voir avec des applications et un endroit unique où on peut facilement les télécharger. Et l'utilité de ce Google Chrome App Store, la manière dont ça va marcher, c'est que dans leur navigateur Chrome, vous allez avoir la possibilité d'installer des applications web, c'est-à-dire que vous allez pouvoir facilement, de la même manière que vous avez des sites web où vous pouvez télécharger des applications pour Windows ou pour Mac ou etc., vous allez pouvoir télécharger et installer en quelque sorte des applications web pour pouvoir y accéder très facilement. Et ça peut paraître un petit peu trivial parce qu'on se dit bah c'est facile d'accéder à une application web, on met l'adresse web dans la barre d'adresse du navigateur et on y accède, c'est très simple, sauf que ça donne un point central pour y accéder et les installer facilement qui font que c'est toute ça donne toute la force de Google, ça met toute la force de Google derrière les applications qui seront présentes sur ce navigateur. Je m'en mêle un peu les pinceaux. alors je vais demander peut-être, bah, par exemple, à Loïc de nous dire pourquoi. Moi, je trouve ça super important. D'une part, parce que ça donne une valeur ajoutée à Chrome, le navigateur, et en plus, ça sert de base pour leur système d'exploitation Chrome OS pour fournir des logiciels, en quelque sorte, entre guillemets, pour Chrome OS. Je me trompe en pensant que ça a une importance capitale ou...
C'est important pour nous développeurs parce que ça va donner du trafic aux applications. Et Sismic est disponible en version 100% web, donc HTML et plus depuis un an maintenant, depuis le 15 juillet, avec d'ailleurs un succès incroyable puisqu'on a 20% de croissance par mois de l'utilisation. Par mois, absolument. C'est Sismic version web étant. C'est le matin quand je me réveille, je me lave les dents et ensuite je vais voir mon Google Analytics de Sismic web parce que ça me donne la pêche quoi qu'il arrive. Et ça fait 6 mois qu'on a 20% par mois de croissance et ça montre évidemment l'intérêt des applications basées sur le web avec rien à télécharger. On pourra en reparler d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui adorent les desktop apps et donc on fait ça aussi. Mais
ouais. Moi de toute façon l'app que j'utilise pour Twitter, alors pour bon, on va quand même le dire pour ceux qui ne le savent pas, Sismic donc c'est la société et l'application principale de la société de Loïc qui est un client pour réseaux sociaux qui inclut Twitter mais d'autres aussi comme Facebook. Et moi l'application que j'utilise au quotidien, c'est Sismic Desktop, donc l'application desktop de Sismic.
Et je t'en remercie.
Je l'utiliserai pas si elle était pas excellente. Donc tu vois, moi, je fais pas de cadeaux, c'est vraiment ce que j'utilise.
Écoutez, on a pas mal de news là-dessus aussi, mais pour répondre à ta question, ouais, parce qu'on l'a transformé en plateforme, mais je veux pas accaparer l'actu, on en parlera après. Ou même on a des plugins maintenant avec les gens qui créent. Donc à l'occasion de Google I/O, on a lancé Sismic Desktop 2. qui a Buzz, Google Buzz intégré dedans sous forme de plugin. Donc pas mal d'actu là-dessus aussi. Mais puisqu'on parle de Sismic Web et de Chrome OS, l'intérêt de c'est donc pour les développeurs de toucher plus d'utilisateurs parce qu'ils vont avoir la promo d'un App Store. Donc de la même manière qu'on lance une appli iPhone, on a évidemment des utilisateurs qui arrivent parce qu'ils découvrent l'appli promu dans l'App Store, ça va être la même chose. Donc ça, c'est très très bien, ça très bien. Et ensuite, il va y avoir des fonctionnalités spécifiques à Chrome OS et à Chrome qui vont être intégrées. Donc comme par exemple la possibilité de faire des notifications. Si tu utilises Sismic Desktop, tu vois qu'il y a des petits toasters, des petites fenêtres qui se pointent quand tu as une mention, par exemple. Et bien, on va pouvoir faire la même chose en web-based, ce qui est pas possible. Voilà.
Ce qui est pas possible avec les technologies web actuelles, c'est-à-dire que ça sera spécifique à Chrome et à Chrome OS, quoi.
Voilà, il va y avoir des spécificités de Chrome OS qui sont disponibles pour les développeurs et sur lesquelles on est en train de travailler de manière étroite avec Google, qui vont nous permettre de faire plus de choses. Et en fait, le but de Google, c'est tout simplement que les applis web soient aussi performantes que les applis desktop, ce qui est pas facile parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. Par exemple, sur Sismic Web, il n'y a pas de notification, c'est-à-dire cette sonnette qui se pointe, parce que c'est juste pas possible de le faire de tout simplement sans utiliser donc des fonctionnalités spécifiques du navigateur. Donc voilà un exemple. Et c'est très très bien parce que c'est très léger. C'est-à-dire que toutes ces applications web, y compris la nôtre, comme Gmail, notamment si tu es sur un netbook par exemple, ça prend pas du tout de ressources. C'est très facile à charger puisque c'est que du web. Et on est très très enthousiaste à cette idée-là. Et d'ailleurs, je les rencontre la semaine prochaine pour voir si on peut faire partie du lancement, parce que là, ils ont juste annoncé la disponibilité. On aimerait bien, évidemment, être dans leur lancement. C'est la chance Sismic Web est fait entièrement en Google Web Toolkit.
Mais l'objectif, on le voit bien que c'est totalement orienté pour Google Chrome OS, en fait, tout simplement, et les netbooks qui vont utiliser toutes les applis web uniquement dans le navigateur. Enfin, c'est la continuité, en fait. On attendait juste qu'ils annoncent un application store, en fait, pour le navigateur et pour, du coup, Chrome OS, quoi.
Mais c'est, pour moi, bon, c'est sûr que c'est directement lié à Chrome OS, et ça, j'en suis convaincu, et c'est pour moi une initiative absolument géniale parce que ça leur donne cette pièce qui manquait, effectivement, comme tu le dis, Cédric, mais ça va encore plus loin parce que ça permet de légitimiser le web en ce sens que ça donne aux applications web et à ce que veut faire Google, c'est-à-dire faire du web une plateforme en tant que telle de manière à pouvoir utiliser le web pour tout. Donc ça met ce lien qui manquait du navigateur qui est la fenêtre vers le web, vers tous les développeurs qui développent un petit peu éparpillés sur le web, de la même manière que l'App Store d'Apple a permis de centraliser tout ça pour les applications sur téléphone portable. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que cet App Store va encore plus loin que simplement pour Chrome OS, mais démocratise le web en tant que tel. Il n'est pas du tout inimaginable que demain, on est dans un autre navigateur, par exemple Firefox, qui, s'il est compatible avec toutes les fonctions du web comme Chrome, on puisse également se servir de ce type de store, non ? Ça change un petit peu l'approche qu'on a du web. On va aller installer des applications plutôt que d'aller chercher un petit peu éparpiller les sites web qu'on va utiliser.
Ouais, mais alors tu vois, regarde, dans l'exemple que tu cites, tu dis Firefox compatible avec toutes les applications web, et du coup on peut utiliser son Firefox pour faire la même chose. Je suis pas certain que, même s'ils sont très ouverts Google, je suis pas certain qu'ils aient envie de voir apparaître leur store. Et d'ailleurs, tu me arrêtes Loïc si je me trompe, mais c'est quand même spécifique à Chrome ce qu'ils ont annoncé.
Oui, c'est spécifique à Chrome, absolument.
Voilà, c'est ce qui me semble. Il y a un SDK spécifique, et d'ailleurs, il y a même la possibilité. Ça fait dans ce SDK, il y a cette fameuse petite fonction en plus qu'on rajoute au navigateur pour envoyer les URL. Ouais, même pour envoyer les URL sur les téléphones Android sous Froyo. J'ai essayé tout à l'heure et ça marche très très bien. D'accord. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment lié à Chrome, quoi.
J'avais l'impression que certaines parties du store seraient accessibles aux autres navigateurs, mais je me trompe peut-être. Enfin, dans tous les cas, c'est effectivement une annonce extrêmement importante et qui est essentielle pour l'avenir du système Google Chrome OS. Et pour moi, c'était l'annonce la plus importante de Google I.O.
Alors, pas pour moi.
Dis-moi.
Ouais, moi, c'est vraiment le... C'est ton sujet d'après, je crois, mais c'est vraiment...
Bah, vas-y, on enchaîne.
Je pense que c'est vraiment la télé qui est le, pour moi le... Et c'est marrant parce que, comme d'ailleurs tu en donnes le... Tu en partages visiblement le sentiment, ça n'a pas été aussi big news que ça, le Google TV, alors que pour moi, c'est majeur. C'est-à-dire que si on regarde depuis, sincèrement, depuis l'invention, les débuts du web dans les années 90, il y a un seul média qui n'a pas été vraiment révolutionné par le web, un seul, c'est la télé. Tout le reste, regarde, on fait un podcast audio là avec un peu de vidéo. et on n'a pas besoin de radio. Et je trouve que sur la télé, si on regarde, finalement, ça n'a pas grand chose à changer en 20 ans. C'est-à-dire qu'on est toujours obligé de nous adapter aux horaires de telle ou telle émission si on veut la regarder, et pas l'inverse. Et puis, YouTube a finalement reproduit la manière de fonctionner des médias traditionnels d'une certaine manière, puisqu'il n'y a pas énormément d'interactions. Là, tout d'un coup, à nouveau pour un développeur, c'est majeur parce que votre télé va tourner sous Android et sous une version spécifique d'Android. Pour moi, c'est incroyable parce que ça veut dire que je peux faire Sismic pour Android TV. Et l'idée d'avoir mon appli dans votre télé, je t'avoue que c'est complètement... ça me fait vraiment flipper parce que on va pouvoir faire des choses absolument incroyables qui sont totalement inconnus pour l'instant, puisque la consommation face à une télé n'est pas la même. On n'est plus sur un canapé, on consomme des infos, et moi je vois plein de choses avec les réseaux sociaux qui vont arriver autour de ça, parce que le regarder la télé, c'est typiquement social dans son domicile, mais pas du tout social, puisque c'est juste un one-way media qui vous envoie des infos. Et donc, je crois que ça va être fascinant, d'abord d'avoir le search là-dedans, d'avoir les émissions comme on veut, et ensuite un App Store dans ta télé, mais attends, c'est extraordinaire. Je pense que les TF1 et autres, et je me tais, ont vraiment, 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 autant les Juiced et tout ça, ça a été des gamelles. Hulu, c'est plutôt un succès, mais c'est pas encore ça. Là, je crois que pour la première fois, les grands... toute l'industrie de la télé va être sur la tête. Et ça va prendre le temps qu'il faudra.
Bah, je vais, à vrai dire, j'étais un petit peu malhonnête en parlant de Chrome App Store, parce que pour moi, d'autant plus parce que nous sommes dans ce business du podcast et que mes camarades comme Cédric font du podcast vidéo, cette histoire de Google TV est absolument majeure aussi, et sans doute même plus que le store, parce que... Alors d'abord, je vais expliquer quand même ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un petit peu une box, comme votre Freebox ou votre Livebox ou ce que c'est, ou même Boxy pour les gens qui connaissent. Sauf que la différence, c'est que c'est Google qui la crée, et que en dehors du fait que vous allez pouvoir acheter une box Google TV et la mettre à côté de votre télé, elle va également être intégrée dans certaines télés à l'achat. Des télés comme les télés Sony notamment, et certainement d'autres qui vont le faire à l'avenir. Et ce que ça veut dire, c'est que et Google va gérer l'aspect logiciel de ces télés, c'est-à-dire que c'est Google eux-mêmes qui vont envoyer les mises à jour par Internet à ces télés-là. Et ce que ça veut dire, c'est que votre télé, elle aura la prise antenne, ou câble, ou ce que c'est, et la prise Internet. Et grâce au système Google TV, vous n'allez plus avoir de différence entre le contenu télé tel qu'il est, tel que vous le connaissez aujourd'hui, et le contenu du web qui pourra être adapté à votre télé. Et pour moi, enfin pour nous les podcasteurs, c'est absolument essentiel, évidemment, puisque ça veut dire que quelqu'un qui est affalé dans sa TV, dans son canapé, en regardant sa télé, comme le disait Loïc, il ne va pas avoir de différence entre le fait de presser le bouton pour aller sur TF1 ou le fait de presser le bouton pour aller sur No Watch TV. Donc, ça change effectivement la manière dont la télé est conçue, parce que tout ce qui est sur Internet arrive aussi sur votre télé à condition qu'elle soit...
Imagine les... Moi, je m'amuse récemment à refaire pas mal de vidéos sur Loïc.tv, qui est ma chaîne YouTube. Et je le fais avec une petite caméra Kodak qui fait du HD C'est incroyable la qualité. Si tu mets ça sur un écran télé en plein écran, il n'y a absolument aucun problème. Ouais. Après, ce n'est pas pour ça que ça te rend intelligent. Et quand tu dis conneries, ça reste des conneries. Mais la qualité du son et de l'image sont dingues, sont dignes maintenant d'aller sur de tels écrans, alors que pas du tout il y a encore 2 ou 3 ans, franchement, ouais. sur YouTube.
Oh, et, non, c'est vrai.
Et donc, on va pouvoir avoir du contenu qui va être créé spécifiquement, regardé sous forme de bookmark sur ta télé, tu vas avoir, comme sur un navigateur, comme sur Chrome, on va avoir ses petits favoris. Et à côté des favoris des séries télé, pour ceux qui aiment, tu vas pouvoir mettre des favoris de chaînes YouTube, de chaînes en direct comme celle-là, sur Ustream, et ainsi de suite. C'est une vraie révolution. Je pense que ça va être absolument incroyable.
Alors, je suis d'accord. C'est, on arrive au point dont je parlais, moi, depuis à peu près un an, qui est cette idée que l'origine du contenu audiovisuel n'a plus d'importance. À partir du moment où tous les contenus sont réunis sur la télé, l'origine du contenu n'a plus d'importance parce qu'elle arrive de toute façon au niveau du spectateur, de la même manière que quand le web est arrivé, qu'on ait été un grand journal ou un petit blog, le contenu arrivait sur la page web de la même manière, donc les petits ont pu entrer en concurrence avec les grands. Alors évidemment, ils n'avaient pas forcément la même démarche ni la même cible, mais l'opportunité était là de faire concurrence aux plus grands éditeurs.
Et surtout, c'est toute l'arrivée d'un contenu vertical. Là, ce qu'on fait là, c'est un contenu très vertical.
Ouais, bien sûr.
On parle de techno pour les geeks et les accros adorent ça. Par contre, les gens dans la rue vont rien comprendre. Mais tu vas avoir, parce que vous êtes précurseur de faire ça, tu vas avoir la même chose qui va se produire sur la plupart des sujets. J'en sais rien, moi. Ça peut être par exemple, le tricot,
c'est le truc dont on parle tout le temps en fait.
La course à pied. Moi, j'adore la course à pied. Tu n'as pas du tout le marché sur les chaînes traditionnelles, même du câble, même les 300 ou 400 chaînes, pour faire du contenu vertical qui parle de course à pied. En revanche, de faire du contenu vertical avec comme ça des gens comme nous, des passionnés, ça va cartonner. Et ça, c'est nouveau. Parce qu'ils vont voir qu'ils peuvent le faire. Aujourd'hui, il a la qualité. Avec ces petites caméras maintenant, moi, je pense qu'on va avoir une explosion de contenu et qu'enfin, les gens vont se mettre à beaucoup plus créer de contenu vidéo.
J'en suis convaincu. Cédric est le seul ici qui fait un podcast entièrement vidéo à succès. Toi, j'imagine que tu es fou de joie à l'idée de Google TV.
Évidemment. Et d'ailleurs, on a enregistré tout à l'heure là, l'épisode 70 et on en parlait de Google TV. Ben, pour moi, effectivement, c'est l'annonce majeure. Et même au-delà.
C'est où ça, Cédric? C'est sur quel URL?
C'est si tu veux voir les derniers podcasts, c'est www.nowatch.tv. Et donc, tu vas voir dedans les podcasts de Geek Inc. Donc, on est deux dans un canapé. voilà.
C'est un peu la mécanique d'Ignation.
Voilà. D'accord. Donc dans l'idée en fait pour moi c'est ça a été l'annonce majeure. Quand j'ai vu ça, en plus quand j'ai vu les développeurs de Boxy que je suis sur Twitter dire on va développer un Boxy pour Android pour la Google TV, je me suis dit ça y est c'est parti, on va être présent partout. Oui. Moi je vois bien une appli No Watch aussi sur Android, ça serait
fort
sympathique. Et au-delà de ça en fait, moi j'ai un Apple TV qui me permet de regarder mes podcasts sur la télé. Seulement, ça me fait une box de plus finalement pour regarder du podcast. Si je veux regarder une série télé que j'ai enregistrée par exemple sur ma 9box, je suis obligé de switcher sur ma 9box. Donc j'ai 12 prises HDMI sur mon téléviseur avec ma console et tout ça. Enfin bon, c'est vraiment l'horreur. Là, je me dis qu'on va peut-être avoir une box totalement unifiée et c'est ça la vraie nouveauté. Et surtout, quand je vois Google qui s'intéresse à ça. Me dit, tiens, est-ce que Apple va peut-être arrêter de prendre l'Apple TV pour juste un hobby et se réveiller et proposer quelque chose parce que eux aussi ont des applications, faut pas oublier, sur l'iPhone et sur l'iPad. Je vois bien arriver dans quelques temps des applications sur Apple TV, pourquoi pas avoir son Twitter ou autre, sachant que déjà l'iPhone ou même l'iPad peut faire office de clavier pour l'Apple TV, puisque moi je m'en sers pour faire mes recherches de vidéos YouTube et tout ça. Donc je crois qu'en fait, là on a assisté ces dernières années à une bataille sur le smartphone. C'est un marché qui va sans cesse évoluer, mais on commence à arriver
un
peu de stabilité. Et je pense vraiment que la bataille entre ces grands acteurs va se déplacer sur la télévision. Aujourd'hui, le seul qui a vraiment fait quelque chose, c'est Microsoft avec son Media Center et sa Xbox qui fait Media Center Extender. Mais voilà, en fait, ils ont laissé en plus la place totalement libre à des développeurs indépendants pour faire du XBMC, du Plex, du Boxy. J'ai vraiment l'impression que c'est vers là que va se situer la prochaine guerre industrielle, en fait.
C'est possible, mais moi, la réaction qu'a eu Yann, qui est donc l'animateur qui anime l'émission avec Jeff une semaine sur deux. Yann, évidemment, grincheux, voilà. Il a dit oui, mais de toute façon, Boxy a déjà fait ça. Je comprends pas pourquoi c'est intéressant. Je vois pas pourquoi ça change quelque chose. Moi, évidemment, j'étais pas d'accord avec lui parce que je suis jamais d'accord avec lui. Mais c'est évidemment pas la même chose quand il y a Google derrière. Oui, c'est la même chose que Boxy finalement, à quelque chose près. Mais quand c'est Boxy qui fait quelque chose et quand c'est Google qui fait quelque chose, ça peut pas être pris de la même manière, c'est évident.
Non, c'est clair. On va dire que l'argent derrière fait qu'on peut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis tu vois, il y a l'Android Market, il y a vraiment tout un tas de choses qui n'existent aujourd'hui pas tout à fait sur Boxy.
C'est ça qui est important, c'est que il y a 50 000 applis Android.
Eh oui.
Et donc nous, avec le même code de Sismic pour Android, on va pouvoir, comme on le prépare déjà, les tablettes Android. C'est-à-dire qu'avec le même code, on va pouvoir créer les tablettes sur Android qui sont en train d'arriver. Une appli qui va marcher sur un écran plus grand, donc un écran de tablette. De la même manière, en fait, c'est une modification d'interface, mais pas du moteur qui est dessous. Donc l'investissement pour un développeur, c'est extraordinaire, parce qu'avec la même appli, vous allez avoir le téléphone. Vous allez avoir d'ailleurs aussi des écrans plus petits qui vont sortir que les téléphones, du type comme des montres en fait. Il va y avoir des tout petites devices, des tout petits objets qui vont être...
Sous Android,
oui, absolument. Et je ne suis pas sûr que je devais en parler de ça d'ailleurs.
Si tu peux en parler. Même moi, j'ai vu un prototype et j'ai vu fonctionner des applis dessus et je me suis dit, waouh, génial, au lieu d'avoir l'heure, j'ai mes tweets sur ma montre.
Oui, donc, voilà, mais donc du petit et donc jusqu'à la tablette et ensuite les écrans des écrans télé. Et c'est totalement fascinant et c'est surtout extraordinaire parce que pour nous, c'est le même investissement.
Ouais. Et je sens que, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure encore, mais je sens que là, c'est vraiment ce qui a démarqué Google d'Apple, parce que bon, on a l'impression qu'ils se suivent un peu tous, quoi. En gros, je fais un marketplace, tu fais un marketplace, je fais un smartphone, tu fais un smartphone, bon voilà.
Ils se suivent jusqu'à maintenant, c'était quand même Google qui suivait Apple. Là, ça inverse un peu la tendance.
Là, Google a carrément pris le lead. Avec Google TV, quand on voit ce qu'a fait Apple et l'Apple TV, je trouve ça dramatique.
Ah, c'est sûr que l'Apple TV était un ratage complet, oui.
C'est dramatique, sachant qu'en plus, ils n'arrêtent pas de nous dire que c'est OS X qui tourne sur toutes leurs plateformes. Alors, c'est vrai que sur l'Apple TV, c'est un vrai OS X, il y a les mêmes dossiers, tout la même chose quand on creuse un peu dedans. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces applications sur la télé? Ils ont déjà la box qui existe, quoi. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et je pense que vraiment, là, Apple va se réveiller. C'est pas possible qu'il laisse Google s'envoler, quoi.
Oui. C'est, à vrai dire, ça va refaire un deuxième standard qui n'est pas forcément bon. Parce que là, pour le coup, pour que les télévisions Internet décollent, il faut qu'il y ait une unification des standards. Encore que si Android fait tourner certaines applications et que Apple fait tourner d'autres applications sur votre télé, finalement, s'il n'y a que deux standards, ça peut devenir, ça peut véritablement décoller. Là où Google aura forcément un avantage, c'est qu'ils vont mettre leur système sur le matériel d'autres constructeurs, alors qu'Apple refuse systématiquement de mettre son système sur d'autres matériels. Et on a longtemps parlé de l'Apple TV, c'est-à-dire d'une éventuelle télévision véritablement de marque Apple qui intégrerait la box Apple TV, mais c'est jamais venu. Donc aujourd'hui, ça devient un petit peu délicat.
On verra. Enfin, on verra.
À vrai dire, moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué dans ces deux annonces et surtout dans celle de la Google TV. c'est à quel point on commençait à parler de Google et d'Apple, et systématiquement, chaque chose dont parlait Google avait été... Enfin, on avait l'impression que c'était un écho à ceux dont avait parlé Apple les semaines ou les mois précédents. Mais on n'entendait jamais parler dans toutes ces discussions, ou presque pas, ou comme petite préoccupation périphérique, de Microsoft. Et ça, ça m'a véritablement choqué, parce que je me suis dit, il est invraisemblable que sur ces marchés monumentaux, Microsoft soit aussi peu présent, et à quel point ils se sont laissés bouffer petit à petit ces quelques dernières années, ça me paraît, moi, vraiment ubuesque de voir que Microsoft n'est plus présent sur ces batailles. Où, enfin, il ne faut pas non plus les écarter totalement de l'histoire, parce que ça serait une erreur colossale de penser que Microsoft est totalement out. Mais là, ils ne font vraiment pas partie des discussions. C'est incroyable, quoi.
Oui, c'est vrai. Et alors, j'ai eu une réunion chez eux il n'y a pas très longtemps. Tu sais, on a beaucoup parlé de l'abandon de courrier de Microsoft.
Oui.
Seulement, eux ont réagi en disant « Mais c'est pas parce qu'on ne fait pas courrier qu'on ne fait pas de tablette. » Et moi, j'ai déjà vu circuler des tablettes Samsung, pour ne pas les citer, qui font un peu plus de 7 pouces et qui fonctionnent sous Windows Phone 7. En fait, leur idée, c'est maintenant d'essayer d'unifier, comme dirait mon collègue Julien de Geeking, l'expérience utilisateur. Parce que le problème qu'il y avait, c'est qu'on avait...
Il serait temps, oui, c'est sûr que c'est important.
Non, mais voilà, mais on a une interface
Moi, je suis d'accord avec Julien.
On a une interface différente quand on alors qu'on est chez Microsoft, quoi. Je veux dire, tu passes de Windows 7 à la Xbox à Windows Phone et même avant Windows 6.5, tu te dis c'est pas la même boîte qui a fait les trois logiciels, tu vois. Ou ouais. Même tu regardais le Zune, tu disais mais comment ils peuvent faire un Zune et un Windows Mobile 6.5.
On dit Zune, Cédric. Zune. À chaque fois que tu dis ça dans Kicking, ça me transperce les oreilles, excuse-moi.
Eh ben, très bien, donc un Zune. mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, tu vois, ils sont en train de se dire, finalement, si on lance courrier, on va encore lancer une nouvelle interface utilisateur et c'est presque plus possible. Et donc, du coup, ils capitalisent sur quelque chose déjà existant et qui n'est pas qu'un concept pour se lancer dans la tablette, tu vois. Donc, je pense qu'en fait, ils ont beaucoup de choses à raconter. Et aujourd'hui, Microsoft, en fait, va devenir le Apple d'hier, en fait. Donc, je vais m'expliquer, mais en gros, c'était super cool d'être Apple il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, ça devient un peu saoulant, a priori. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, peut-être parce que maintenant, le Think Different quand tu as un iPhone, ça fait sourire. mais Microsoft va redevenir cool dans les mois qui viennent. Et là, je pense que voilà, ils ont une vraie carte à jouer et que on n'entend pas parler aujourd'hui, mais ils vont se réveiller. Très franchement, je pense qu'à la fin de l'année, on va entendre parler d'eux avec Natal, avec tout le reste.
C'est très possible. Ouais.
Ça va devenir super cool d'avoir un Windows Phone, tu verras.
Ouais. C'est tout à fait possible. Et Loïc, toi, t'es quand même assez proche de la communauté des développeurs Windows. Je sais que Sysmic existe en version pour Windows et enfin Sysmic for Windows et Sysmic Look qui sont optimisé pour Windows spécifiquement. Toi, tu jettes quel regard sur cette absence de Microsoft dans les... Enfin, est-ce que c'est moi qui ai l'impression qu'ils sont absents ou ils sont juste en embuscade et ils vont revenir ou ils sont présents et moi je les vois pas ?
Ils sont très très présents. On travaille de manière très rapprochée avec eux puisqu'on a même réécrit Sysmic Desktop entièrement sous Silverlight qui est leur langage, ouais. leur anti-flash ou leur anti-Adobe hier.
C'est Sysmic for Windows, c'est celui-là le client.
Non, ça c'était notre première version en fait, qui était du code, de côté, en effet du code Windows entièrement et spécifiquement et uniquement disponible sur Windows, ce qui est quand même 80% de nos utilisateurs, parce que les geeks sont sur Mac et moi j'aime beaucoup les Mac aussi. Et on a tendance souvent à l'oublier quand on code. Moi, si je regarde ma boîte, ils sont tous... Je dis c'est parce que j'ai un PC aussi maintenant. Mais ils sont tous sur Mac. Et c'est une grosse erreur à faire quand tu es entrepreneur, c'est de te prendre pour la cible. Il faut faire très attention à ça. 80% de nos utilisateurs sur PC.
Donc, moi, je suis sur PC, de toute façon. Mais...
Eh bien, écoute, essaie dans ce cas-là, si tu vas sur Sysmic Desktop, sysmic.com et Desktop, on a réécrit entièrement le Desktop en Silverlight. Et en effet, c'est sur base de code du Sysmic pour Windows.
C'est la preview, je suis sur le site là, donc Sysmic Desktop de preview. Oh, bah écoute, je download
c'est
tout
ça.
De suite.
Okay. Et, bah, écoute, download, si tu es sur PC, c'est plus rapide que la version Sysmic for Windows. Et c'est incroyable les performances, et surtout en fait, donc c'est le résultat de 9 mois de boulot. avec une petite équipe, enfin significative. C'est-à-dire que il y a des plugins dedans. Donc c'est une plateforme de développement, d'ailleurs, ouais, sur plateforme.sysmic.com, sur laquelle n'importe qui peut écrire maintenant un plugin pour intégrer son service dedans. Donc c'est comme ça qu'on a créé nous-mêmes les plugins Twitter, Facebook, Google Buzz, LinkedIn, ainsi de suite. Mais par exemple, si Viadeo, via n'importe quoi, ou Dailymotion voulaient s'intégrer dedans, ils pourraient développer eux-mêmes un plugin. De ce point de vue-là, c'est très très puissant parce que ça marche sur PC et sur Mac. Les performances sont un peu meilleures, enfin largement meilleures pour l'instant sur PC, mais ils sont en train de bosser sur Mac.
Mais attends, sur Mac, on devient un peu technique là, mais moi ça m'intéresse. Sur PC, il est sous Silverlight. Sur Mac, il est sur quoi ?
Silverlight.
Ah, Silverlight est sur Mac aussi.
Ouais, bien sûr.
Mais je savais pas, d'accord.
Bien sûr, il y a des petites. Comme moi, j'aime bien être honnête et transparent. Sur Mac, il y a un problème de Silverlight, c'est que la petite roulette, je ne sais pas comment on l'appelle en français, la molette, merci, qui permet de scroller sur les, en bon français aussi, de scroller.
Non, mais c'est bon quand Jeff n'est pas là, quand Jeff n'est pas là, il nous faut quelqu'un pour le remplacer, il fait
voilà,
ça.
Voilà, exactement. Ben, donc ça, c'est pas encore connecté, c'est-à-dire que ça manque, et ça s'en manque, quand moi je suis sur Mac, ça m'énerve. Mais c'est l'affaire de quelques semaines. On peut juste pas le faire, nous, pour l'instant. Mais d'accord, à part ça, c'est très impressionnant parce que c'est beaucoup plus stable que R. On a, nous, une architecture très sécurisée qui nous permet de faire des plugins qui sont absolument pas possibles sur Adobe. Et les performances, alors, sur PC sont dingues. C'est-à-dire que c'est plus rapide et les plus performants que Sysmic pour Windows, qui était en .NET, comme tu rentres dans la technique. Donc, avec un effort relativement minimal, on a réutilisé tout notre code Sysmic pour Windows, on l'a passé sur Silverlight, et on se retrouve maintenant avec des deux plateformes. Et dans le chat, on me prend pour un commercial Microsoft, mais j'ai quand même lancé mon appli iPhone il y a deux jours. Donc, aussi parler d'Apple si vous voulez. Juste pour dire que que Microsoft est absolument pas absent. Nous aussi, l'appli Windows Phone 7 qui est prête. Et là où c'est magique, c'est que c'est comme Android, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est multiplateforme. Si vous êtes développeur, ben vous codez une fois, vous avez Windows, Mac et leur futur téléphone. Parce que c'est le même code. Après, c'est
donc
juste...
c'est aussi en Silverlight pour le Windows Phone 7, en fait.
L'ensemble des applis du nouveau téléphone Windows Phone 7 sont en Silverlight. Donc quand vous codez en Silverlight, ben vous avez les trois. Mac, PC
Ouais, d'accord. C'est ce que je disais, en fait, ils sont très très forts sur ça. On n'en entend pas parler, en fait, dans l'actu, parce qu'ils font pas de grandes conférences et tout ça en ce moment, voilà, c'est tout. C'est juste qu'ils sont pas dans l'actu, mais ils sont pas du tout endormis, hein, loin de là même.
Ouais, donc ils ont...
Très bien, vraiment.
Ils ont peut-être évité, ils ont fait quelque chose d'intelligent, effectivement, c'est qu'ils ont évité de faire du bruit avant d'avoir quelque chose de solide à présenter. Et du coup, d'ici la fin de l'année, effectivement, si tout ça marche de concert, on va avoir un déluge qui va les ramener sur le devant de la scène et en faire certainement le troisième challenger qu'on attendait entre Google et Apple.
Sincèrement, pour bosser avec eux de manière quotidienne, ce qui est d'ailleurs un autre point, ils ont un programme qui s'appelle BizPark, qui est vraiment bien pour les startups. Et nous, on a des contacts dédiés, et c'est vraiment le l'aide qu'on a est incroyable. Pour vous donner une idée, quand on a justement ce genre de soucis pour faire marcher la souris, le scrolling sur Mac, on a directement accès à l'équipe qui code Silverlight, et ça, c'est vraiment rare pour nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour bosser avec eux de manière quotidienne, l'effort qui est derrière est colossal. Et ce qu'il faut voir avec Microsoft, c'est que s'ils sont pas forcément les premiers, ils arrivent ensuite a pas mal rattrapé. Regardez, le Vista, c'était une daube. Et Windows 7, sincèrement, c'est vraiment bien. Alors après, les Mac puristes vont dire, mais c'est pompé sur OS X. C'est vrai pour beaucoup de choses. Mais quand on a un PC aujourd'hui, c'est hyper agréable l'expérience. Franchement, iMovie, il ne manque pas grand-chose. Hein.
Bah moi, je défendais Vista bec et ongle depuis le début. Je le trouvais très bien déjà. Donc, je ne sais pas si je suis très. si les gens qui critiquaient Vista vont me croire. Mais c'est sûr que 7, il est très bien. Et moi, j'en suis tout à fait content. Il est absolument parfait. Mais bon,
qu'ils vont venir très très fort. Vraiment. Ouais. En fait, de toute façon, c'est l'avenir de leur boîte qui est en jeu.
C'est clair, oui.
Et le nouveau concurrent de Microsoft, c'est Google. Google n'est plus un moteur de recherche depuis longtemps. C'est devenu, c'est en train de devenir un operating system. C'est en train de devenir, on en parlait, de la télé. Et donc la bête à abattre, c'est Google. Et ils sont en train de jouer leur avenir là. Donc c'est juste pas possible. Je pense qu'ils viennent un peu tard, mais qu'on va avoir des bonnes surprises.
C'est sûr. Bah c'est pas la première fois qu'ils feraient une remontée. Cédric, tu voulais dire quelque chose? Je crois que je t'ai interrompu.
Non. Ouais, tout à l'heure quand tu disais ils font pas d'effet d'annonce, machin, tout ça. Bon, de toute façon, c'est sûr que le dernier qu'ils ont fait avec le HP Slate, ils se le sont pris dans la gueule pour parler poliment. Donc non, voilà. Je pense qu'en fait maintenant ils vont se tenir un peu à carreau sur ce genre de truc. Tu vois, genre le courrier, c'était quand même hyper déceptif. Parce que même moi, j'avais trouvé ça déception. Génial. Ça a été une déception dans le sens où ça finalement, ça n'a pas été annoncé officiellement. On est bien d'accord. Mais voilà, c'était des vidéos taguées, c'était un concept, tout ça. Et c'était déceptif. Ça a été déceptif quand ils ont dit, ben, on le sortira pas. Du coup, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi?
Attention avec Slate, hein, parce que c'est pas Microsoft, hein, c'est HP.
Non, tout à fait.
Mais Microsoft a quand même.
Steve Ballmer qui monte sur scène en disant, regardez ce qu'on peut faire, tout ça. Et puis c'est Windows 7 dessus, et regardez le multipoint et tout ça, bon.
Mon interprétation personnelle, c'est que c'est Slate qui a essayé de faire une tablette très très bon marché avec un processeur de merde dedans.
Oui.
Ils avaient mis un Atom.
Voilà. Et les atomes, on sait ce que ça donne. Et ils ont essayé de mettre au moment de le, je pense, hein, j'en sais rien, parce que tout ça, personne finalement n'en a. HP d'ailleurs a jamais confirmé que le Slate ne serait pas livré, hein, pour l'instant. C'est que
il
des
serait
rumeurs.
Pas livré sous Windows.
Oui.
Il n'y a pas de communication officielle sur le sujet, mais je pense.
Je crois qu'ils ont annoncé qu'ils avaient tué le projet, hein, après le rachat de Palm. Ouais.
Oui, après le rachat, juste après le rachat de Palm, ils ont dit c'est terminé.
Qui a raté un truc, mais Windows 7 sur un ordinateur touch, ça marche. Il faut juste pas que ce soit un processeur de merde.
Ouais. Et puis il faut un grand écran, parce que quand tu as une résolution un peu élevée, c'est un peu dommage. L'ergonomie est pas idéale. Par contre, très clairement, le coup du HP Slate aussi, quoi. Enfin, pour l'image, c'est quand même pas terrible, quoi.
Enfin, bon, on est en train de se perdre un petit peu. Mais c'était important quand même de refaire le point sur Microsoft, parce que moi, ça m'a vraiment choqué qu'on n'en entende pas parler, et c'est important d'entendre votre côté de l'histoire et de remettre les points sur les i en disant
de manière claire. Mais pour finir là-dessus, tu as aussi l'explosion des services similaires à Twitter. Si tu regardes ce qui se passe, il y a quand même Google qui a lancé Google Buzz, et je ne suis pas d'accord avec les gens dans le chatroom qui disent que c'est un bide, parce que nous, on voit la croissance par le nombre de stats, les stats qui y passent, et je pense qu'ils sont partis de travers, mais ce n'est pas du tout pour ça que c'est un bide, et je pense qu'on va voir Microsoft arriver avec quelque chose de similaire, et Facebook qui devient public en ouvrant les données, même chose, c'est un phénomène qui est parti pour durer, et je crois qu'on va avoir un combat de titans là aussi autour de l'actu finalement public, c'est-à-dire les infos en temps réel public, avec Twitter et Facebook au centre, mais maintenant Google qui débarque avec Buzz, s'ils se plantent, ils vont être obligés d'acheter Twitter, ça va leur coûter quelques milliards,
c'est sûr que c'est
un investissement, hein.
C'est sûr que là, il y a de toute façon une grosse activité, et ça va constituer ça constitue déjà une part essentielle du trafic sur le web, et c'est pour ça que la direction que tu as pris avec Sismic était intelligente, parce que ça devient une part essentielle de ce que les gens font sur Internet, et il faut avoir un endroit pour centraliser tout ça, et c'est ce que tu fais finalement avec Sismic. Mais par contre,
plus il y en a, plus je suis content.
Oui, bah oui, évidemment. Ouais.
Ça fait un problème de plus à résoudre pour nos utilisateurs.
C'est sûr. Moi, je pourrais pas parler du web social pendant des heures, mais revenons un petit peu vers Google I.O., parce qu'on n'en a pas fini. Et on va encore parler de Sismic, parce que l'autre chose qui a été annoncée, c'est Android Froyo, donc la mise à jour du système Android, du système de téléphone de Google. La dernière mise à jour, la version 2.2, qui nous donne l'occasion de parler d'Android d'une part, de l'iPhone d'autre part, et également de Flash, puisque cette dernière mise à jour inclut une version complète de Flash et permet d'utiliser les sites web qui sont conçus sous Flash. Alors, je sais que Cédric a mis à jour son Nexus. C'est un Nexus One que tu as ?
C'est un Nexus One, ouais.
D'accord. Alors, ça donne quoi, Froyo, sur Flash et sur le reste ?
Alors déjà, Froyo, en général, c'est tout simplement hyper rapide. Mmh. Mais très franchement, j'ai un iPhone 3GS à côté et quand j'ouvre une page web, par exemple, c'est le jour et la nuit. Ouais. Même au-delà de ça, partout dans le menu et tout ça, tout est instantané.
Ça, c'est quoi ça, le HTC ?
HTC, le Nexus One.
Ah, sur le Nexus One, parce qu'il y a le nouvel HTC qui est encore plus rapide que le Nexus
One. Le Evo 4G ?
Et oui, mais lui n'est pas encore officiellement, en tout cas, sous Froyo. Donc, j'ai pu tester que sur le Nexus One. C'est le jour et la nuit. Franchement, à peine dès qu'on clique sur une icône, genre la musique, ça se lance immédiatement. Il n'y a plus besoin d'attendre. Là, j'ai d'ailleurs essayé de suite avec Sismic. je clique dessus et c'est lancé immédiatement. C'est même plus rapide que le 3GS, très franchement, bien plus rapide.
T'as de la chance de l'avoir vu, parce que moi je l'ai pas encore vu, donc je suis ravi. En fait, on a lancé nous le Froyo a cassé Sismic, pas que Sismic, mais aussi un de nos concurrents Twidroid, ainsi de suite, avec une modification dans l'OS, et donc en catastrophe ce week-end. C'est génial, sans déconner, la vie de développeur est fantastique parce que t'es tranquille, je sais pas ce que tu fais un samedi midi, puis tu vois passer un tweet, tiens, j'ai installé Froyo. Et Sismic marche pas. Et donc, vas-y, récupère les développeurs. On a fait un build, on l'a testé en catastrophe, et là, on vient de l'envoyer à tout le monde. Donc,
ça marche très bien.
Fou, hein. Ah, ça y est, tu l'as lancé.
C'est bon, par avis, moi, je l'ai pas vu encore.
Voilà, mais le système d'exploitation est vraiment exceptionnel, hyper rapide. Il y a vraiment rien à dire. L'appareil photo se déclenche hyper vite. Ils ont revu un peu l'ergonomie de certains menus. L'application Gmail a été complètement revue. C'est-à-dire que maintenant, je clique sur il y a la photo de mes contacts qui m'envoie un mail. Alors, s'il n'est pas dans mes contacts, il me propose de l'ajouter. Si jamais il est dans mes contacts, j'ai tout simplement la possibilité de lui envoyer un SMS, discuter avec lui sur Google Talk, ou pourquoi pas lui envoyer un tweet via Sismic. Tout est unifié, en fait. Toutes les applis sont capables de communiquer entre elles. Alors, c'était déjà le cas avant, mais là ils ont enfoncé le clou, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas une appli qui n'est pas capable de communiquer avec une autre, quoi.
Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que avec cette mise à jour, Google a pris une avance sérieuse sur Apple et que le système sous cette mise à jour est beaucoup plus agréable, ergonomique, avancé, tout ce qu'on veut.
Oui et non. Fondamentalement, ça change pas le fait que les icônes soient pas forcément super belles, petites. C'est pas tout à fait uniforme. Tu vois, contrairement à l'iPhone où toutes les icônes sont identiques, là, tu peux te retrouver avec des trucs un peu bizarres. Au-delà de ça, il y a toujours le gros problème pour moi de l'Android Market. C'est l'Android Market. Aujourd'hui, je trouve que c'est une catastrophe à utiliser. Les applications sont pas du tout mises en valeur. Le store est vraiment moche par rapport à l'iPhone, quoi, très clairement. Ouais. Ce qui fait que tu vois, t'as pas envie d'aller chercher des applications et c'est compliqué. Si t'as pas le nom de l'application, et qu'elle est pas mise en avant par Google dans l'Android Market, t'as pas envie de te balader dedans, tu vois. Par contre, là où ils ont pris aussi un petit peu le lead, il y a une fonction très très bête, mais très intelligente. C'est que maintenant les applications peuvent se mettre à jour automatiquement en tâche de fond. C'est-à-dire que dès que Sismic est proposé à la mise à jour, si j'ai coché la case mettre à jour cette application automatiquement, je reçois toutes les mises à jour.
C'est top, ça.
Voilà, je reçois les mises à jour au fur et à mesure sans rien demander.
Ça marchait comment avant
Juste une notification dans la barre de notification qui me disait vous avez deux applications à mettre à jour. Et je cliquais dessus.
Il n'y avait même pas de mettre à jour toutes les applications.
Même pas. Et là maintenant tu peux.
Ah oui, d'accord.
Là maintenant tu peux, donc tu vois, ils ont réglé ça. D'accord. Mais la mise à jour auto, je trouve ça génial, parce qu'en fait tu coches une case. Là tu vois, je vais mettre à jour l'application WordPress et je viens de cocher la case puisque jusqu'à présent je l'avais pas mise à jour, et maintenant dès qu'il y aurait une mise à jour de l'appli WordPress, je la recevrai sur mon téléphone sans rien demander, en push. D'accord. En fait. Et c'est ça qui est génial. Beaucoup de choses ont évolué, quoi.
Donc il y a plein de petits trucs qui sont meilleurs, qui sont pratiques, bien faits, rapides, tout ce qu'on veut. Pour toi, donc pour toi, il est très intéressant par certains côtés, mais c'est pas aussi bien fini quand même que l'iPhone au final.
Bah, je trouve que tu vois par exemple la fenêtre de paramètres est toujours ouais, c'est le Minitel quoi. C'est le Minitel 2.0 peut-être, mais c'est le Minitel. Voilà, ça je trouve ça un peu dommage. Par contre, voilà, tu vois le fait que je puisse partager ma connexion 3G en Wi-Fi avec mon iPad Wi-Fi, autant te ouais. dire que pourquoi acheter un iPad 3G, tu vois.
Oui, d'ailleurs
ça, c'est possible en natif dessus.
C'est en natif, ouais, c'est en natif là.
Ah oui, ça c'est top, ça c'est vrai.
Tu crées ton hotspot Wi-Fi en sécurisé WPA2 PSK, donc en plus c'est assez sécurisé.
Ce qui est surprenant, c'est que sur Apple, enfin sur le système de l'iPhone, c'est possible le tethering, mais c'est pas activé. En tout cas, enfin en France, techniquement c'est possible, mais c'est activé nulle part. Donc,
mais parce que c'est les opérateurs qui ont peur de se faire sucer.
Bien sûr.
Leur,
voilà. Ouais, non, mais tout à fait. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est possible sur Android et pas sur les autres téléphones ?
Bon, alors, je vais ménager mes propos quand même. C'est-à-dire que là, c'est en natif sur le Nexus. Et le Nexus est un mobile relativement ouvert. La preuve, c'est qu'il est vendu débloqué chez SFR. Il est pas, ouais. Alors qu'il est vendu chez SFR, il est débloqué. Donc, par contre, il faut s'attendre à ce que, tu vois, les opérateurs qui sortent des mobiles Android sous 2.2 décident de faire comme pour l'iPhone, c'est-à-dire dire, oui, bah, non, désolé, je n'autorise pas le mode modem, le partage de connexion en Wi-Fi, je l'autorise pas. Voilà, donc c'est quand même, il faudra faire attention à ça, tu vois.
Ouais, ok. Bon, écoute, merci pour ce petit compte-rendu. Je me retourne vers Loïc, puisque toi, donc, on l'aura compris, avec Sismic, tu travailles sur Android, Apple et Windows, et enfin toutes les plateformes mobiles et les plateformes non mobiles, d'ailleurs, t'es partout.
Et plateformes web, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire HTML et full web.
Ouais. Et alors, bon, entre, quel est ton point de vue sur cette bataille, sans, une question complètement ouverte, cette bataille entre Android et iPhone. Toi, t'es présent sur les deux. Tu as, on entend des grognements de développeurs par rapport à la politique d'Apple. En même temps, tu viens de lancer ton application sur iPhone, qui visiblement, d'après tes dires, fonctionne très bien. Est-ce que tu as une impression sur quel système est plus intelligent pour les utilisateurs, ou est-ce que les développeurs grognent, mais au final, il vaut mieux faire comme ça pour les utilisateurs, et il y a une vraie politique qui se tient d'Apple, ou est-ce que vraiment l'ouverture totale de Google est plus efficace au final? Tes
Écoute,
commentaires là-dessus.
Ça dépend quel point de vue tu prends. Si tu prends le point de vue du développeur, d'abord un commentaire général. C'est une horreur. Parce que ce que tu as oublié dans les technos qu'on supporte, on a aussi le BlackBerry. Ouais. Les gens y pensent moins parce que c'est plus un outil pro. Encore que je suis allé dans un concert, ça faisait longtemps que je ne suis pas allé parce que je deviens vieux, donc j'y vais moins. HP, tiens, m'a invité au Black Eyed Peas à San José. Mmh. Et sincèrement, la moitié de la salle, il y avait des milliers d'ados là-dedans, c'était des BlackBerry. Et ça m'a vraiment surpris. Ouais.
Ouais, mais en France aussi, hein. En fait, simplement, en fait, ils ont sorti, je sais plus lequel c'était, le 8520, un petit BlackBerry pas très cher qui était vendu 1€ avec des forfaits bloqués. Mmh. Et ils mettaient en avant le chat, le BlackBerry chat, en fait. Et du coup, tous les gamins en ont acheté un et ils pouvaient chatter gratuitement, c'était compris dans leur forfait. Nous, on a même fait une communication sur ça, on en a vendu des palettes de BlackBerry.
Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, c'est ça. Bon, mais donc pour revenir au, imaginez si vous voulez. D'abord, je pense que c'est un must maintenant. Si vous avez une appli, après c'est une question de moyens bien sûr, mais si vous avez une appli ou un service, vous devez juste être partout. Donc ouais. Web, Mac, PC, iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone, et ensuite éventuellement Nokia. Je dis éventuellement parce que nous on est tellement américains, 90% de nos utilisateurs sont américains, que Nokia est secondaire pour nous, mais en Europe probablement Nokia. Bon, c'est horrible. Vous n'avez pas idée. Et c'est que des équipes de développement différents. C'est-à-dire que les utilisateurs, moi souvent, je reçois des tweets. Ah, mais pourquoi la version Sismic pour Android, c'est pas aussi avancé que sur iPhone? Il n'y a pas les espaces. On a un concept sur iPhone qui est plus avancé avec des espaces qu'on peut configurer, que moi j'adore personnellement. Mmh. Et on ne l'a pas encore sur Android, bien que notre appli iPhone est sortie plus tard. Elle est en réalité plus avancée que Sismic pour Android sur plein d'aspects. Et tout simplement parce que c'est pas le même code source. C'est les mêmes équipes derrière de conception produit. Donc on a la même idée, on sait très précisément ce qu'on veut faire pour toutes les plateformes, et on veut faire la même chose, mais c'est pas le même code. Donc c'est absolument horrible, parce que vous prenez les développeurs, des développeurs différents, et vous recommencez, et ensuite évidemment vous adaptez aux fonctionnalités spécifiques de chaque plateforme. Exemple, Android a des widgets, a, comme l'a dit Cédric très bien, des fonctions qui permettent de partager. Donc par exemple, je suis dans une photo, tu as envoyé par email et envoyé direct sur une application, qui sont très très bien faites. iPhone a d'autres fonctionnalités spécifiques à l'iPhone, et ainsi de suite. C'est vraiment un casse-tête. C'est très difficile, et quand Steve Jobs répond... Sincèrement, je ne suis pas un fan de Flash, du tout, ou de Adobe Air. Je l'étais, je le suis un peu moins, parce qu'on a eu pas mal de problèmes. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais quand il dit les utilisateurs, en fait, ce qu'ils veulent, c'est du natif, et ils ne veulent pas d'intermédiaire, c'est-à-dire Flash, entre eux et soit leur Mac, soit leur iPhone, c'est complètement sous-estimé le développeur là-dedans, pour lequel c'est absolument horrible et très très cher de recommencer à coder. Donc ça, c'est le premier point. Et là, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'Android est quand même très intéressant parce que c'est très flexible. Exemple, nous, il nous est arrivé de pousser une version, une mise à jour sur Android. On release tous les mois, en gros, qui avait quelques petits bugs, qui avait un bug qu'on n'avait pas vu, malgré tous les tests. Parce que je ne vous dis pas, quand vous codez pour toutes ces plateformes, il faut aussi tester pour toutes ces plateformes. Et quand vous êtes sur BlackBerry, il faut tester pour 45 téléphones différents qui ne réagissent pas de la même manière. C'est parfait. C'est absolument extraordinaire.
Et c'est pas le cas sur Android. Tu testes pas. Si tu codes pour Android, tu fais une version de ton programme et il fonctionne sur tous les téléphones différents.
Moins. C'était un peu le cas, notamment avec Motorola, qui s'est amusé à modifier les builds d'Android.
Oh là là.
Avec des nouilles sur certains téléphones, les boutons de l'appli étaient devenus rouges, par exemple, parce qu'ils avaient customisé Android. Et heureusement, c'est de moins en moins le cas. Ils sont aperçus qu'ils faisaient une connerie en faisant ça parce que les applis marchaient plus. Donc ça c'est pas mal. L'aborde, si tu veux tester des applis sismiques qui sont pas encore sorties, on a un site qui s'appelle Team Sismic pour ça, teamsismic.com, et je répondais à un commentaire sur le chat. Donc voilà. D'accord. pour le développeur c'est très très difficile, mais bon, on y arrive. C'est très agréable d'être sur Android parce que on a sorti une mise à jour dans l'heure qui suit, on a corrigé le bug.
Ouais.
Et ça, c'est génial parce que au lieu d'attendre une semaine chez Apple,
parce que quelqu'un approuve, qui est l'approbation du machin,
C'est vous qui êtes. Donc nous, on a corrigé le bug, on l'a testé très très vite, on a vu que c'était bon, on a mis la mise à jour, et dans la minute, ton appli est mise à jour pour tous les nouveaux utilisateurs, et ça, c'est fantastique. Maintenant, je dois dire que mon expérience Apple est toute nouvelle puisqu'on vient de lancer vendredi dernier. Et je vous recommande d'essayer, donc Sismic sur l'App Store.
Et Sismic, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas qui ne demandent pas dans l'iPhone, dans la chatroom, c'est Seesmic.
C'est ça.
Comme Sismic.
Voilà. Et c'est un raccoon rouge, un raton laveur rouge.
Oui, d'ailleurs, demandait dans la chatroom pourquoi le raton laveur.
Ouais, c'est les utilisateurs Sismic qui ont choisi. J'ai fait un concours, en fait, où on a donné $1000 à des designers. On a reçu plus de 400 pour le gagnant. On a reçu plus de 400 logos et la communauté a voté. Et c'est le raton laveur qui a gagné. Okay. Voilà l'histoire du logo. Et donc, sur l'App Store, nous, on a été approuvé en une semaine. Donc, ça va. Enfin, mais je trouve que c'est moins bien que d'être directement... En fait, Android, vous... sort de leur market si vous faites des choses qui sont contre leur terms of service, mais a posteriori. Bon, c'est une autre manière de fonctionner. Nous, sur Apple, c'est pas mal. L'expérience développeur est plus complexe. Sincèrement, c'était plus rapide pour nous de développer pour Android.
D'accord. Et toi, alors, tu es quand même développeur, mais en tant qu'utilisateur, c'est difficile de demander de choisir, mais...
Ouais.
Mais tu as donc ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as ces deux points de vue. En tant que développeur, je pense qu'on a bien compris. En tant qu'utilisateur, avec quand même à l'arrière du crâne la vision en tant que développeur. En tant qu'utilisateur, tu préfères l'un des deux ou c'est difficile de te demander de choisir en même temps?
Écoute, si tu me croises, ce qu'il faut qu'on fasse avec plaisir. Tu vas me voir avec, en général, trois téléphones dans les poches.
D'accord.
Bon. Et j'ai un Nexus One, un iPhone 3G, parce que je voulais tester mon appli sur, plutôt sur l'ancienne génération que sur la nouvelle. Ouais. Parce que c'est mieux de tester sur les, voilà, sur les anciens processeurs. Si ça marche sur les anciens, en général, ça va être beaucoup plus rapide. Voilà.
Sur les nouveaux.
Absolument. Et ensuite, un BlackBerry, parce qu'on est aussi sur BlackBerry, et dans pas longtemps, j'aurai aussi un Windows Phone dans la poche. Mais donc, bon, d'expérience, sincèrement, j'aime bien l'ouverture d'Android. Ce que décrivait Cédric, d'être capable comme ça de pouvoir beaucoup plus personnaliser son expérience, parce que les applis sont très flexibles, ils laissent faire à peu près ce qu'on veut, finalement, comme développeur. Ouais. C'est vraiment agréable. Ensuite, le choix des téléphones. Moi, j'aime bien... J'aime pas trop l'idée du modèle T de Ford. Vous vous souvenez, tout le monde a la même voiture, elle est noire.
Ouais. Ouais.
Bon, et moi, j'aime bien le choix. J'aime bien changer tout en restant dans le même système d'opération de Android, de passer, par exemple, le nouveau 4G qui est sorti aux États-Unis. J'ai vraiment hâte de le tester, le HTC, parce que ça va être des vitesses de téléchargement de malade.
C'est clair.
Ça, c'est quand il y aura le réseau aussi.
Mais le réseau existe dans certaines villes, pas à San
Francisco.
Certaines villes, oui. Voilà, à Vegas, ouais. Par exemple.
D'accord.
C'est un lieu de perdition dans lequel on a besoin.
C'est une excellente excuse, je pense, pour aller à Vegas.
Absolument. Donc, ça, j'aime bien, mais j'avoue que là, ça fait 15 jours que je suis sur l'iPhone parce que je voulais tester de ne être qu'avec mon appli, évidemment, iPhone. Et je vais te donner, sincèrement, le sentiment que j'ai, c'est quand même, c'est top. Et c'est ce que disait Cédric, il y a des tas de petites choses dont tu t'aperçois pas
exactement.
En regardant ton téléphone Android, ton Nexus One, mais qui sont là et qui se sentent à l'utilisation. C'est vachement polished, c'est beau, c'est très fini. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour un développeur, c'est beaucoup plus dur aussi de créer ces applications parce qu'il faut être à ce standard-là. Alors que sur Android, je pense que notre appli est très belle, mais si c'est un peu moins bien fini, ben ça va passer. Alors que sur iPhone, on se fait défoncer.
C'est vrai, d'accord. Mais c'est pas une raison pour sortir des applications moches. Hein.
Non, bah non, c'est sûr.
Je pense pas que nos applis soient moches. Hein.
Non.
Sur Android, on a été vu comme l'appli la plus... La couverture presse de Sismic pour Android a été justement, enfin, un client Twitter qui est aussi polished qu'un client sur iPhone.
De toute façon, moi,
c'était pas pour toi que je faisais la remarque.
De toute façon, effectivement, moi, ce que j'ai entendu sur Twidroid, tout le monde l'utilisait, mais c'est pas. Enfin bref, on va pas commencer à faire du. Moi, je l'ai même pas essayé. J'ai pas
d'Android. UI est pas top. Ouais.
Ouais. Mais bon, pour conclure cette question sur Android et le système 2.2, j'ai oublié de demander pour Flash spécifiquement à Cédric, est-ce que ça tourne? Est-ce que ça apporte quelque chose de bien?
Ça tourne très bien. Maintenant, je vois bien les publicités sur tous les sites web que je visite. Et par contre, du coup, j'ai perdu carrément en autonomie. Enfin, je perds en autonomie dès que j'arrive sur un site web qui possède beaucoup d'animations Flash. Bon, voilà,
c'est à ce point significatif, quoi.
Oui, très clairement. Si je me mets à surfer sur le web et que je tombe sur des sites web qui ont, tu vois, à la limite, regarde même l'application YouTube. Je veux regarder des vidéos YouTube. Ouais. Il vaut mieux passer par l'appli YouTube qui est dans le téléphone. J'ai fait la comparaison en fait, hein, tu vois, mais j'ai été sur YouTube la version classique en fait, et j'ai regardé des vidéos YouTube via l'application Flash, via le Flash. Alors en fait, la première fois, j'étais assez surpris parce que ça m'a ouvert YouTube tout simplement. Donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est sympa. Donc du coup, j'ai été essayer d'autres sites web comme Dailymotion et tout ça, et là ça a été une catastrophe. Alors les vidéos sont très fluides. Hop, je m'entends en retour, je sais pas ce qui se passe.
C'est fini.
D'accord. Donc je disais, ouais, j'ai bon, ça tourne très bien, mais le problème qu'il y a, c'est très clairement l'autonomie. Le téléphone se met à chauffer, c'est hallucinant. Ouais. Hallucinant.
D'accord. Ouais, et c'est là que tu vois, on se demande si Apple fait pas bien de juste pas faire marcher ces trucs-là sur le téléphone. Mmh. Ça marche pas, voilà, c'est tout.
Sur une tablette, je veux bien croire que Flash soit nécessaire, mais sur un téléphone, très franchement, j'ai mis des doutes, quoi. Voilà.
D'accord.
Je suis pas pro Flash sur le téléphone.
Et au niveau de l'interface, ça fonctionne bien parce que l'une des autres choses que beaucoup de gens disaient et dont moi je suis assez convaincu, c'est qu'un truc, par exemple, je sais pas, mais un jeu comme Plants vs Zombies, si tu y vas en Flash, c'est pas pratique parce que tu peux pas passer la souris sur l'endroit où tu dois cliquer avant de cliquer puisque ton doigt est déjà dessus.
Exactement. Donc du coup, c'est injouable.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Ok, bon, bah écoute, c'est intéressant, on en parlera certainement plus dans une autre émission, peut-être dans Upload un jour, quand on parlera plus d'Android. Et puisque tu parlais de YouTube, on va conclure cet énorme sujet sur Google I.O. avec la dernière annonce qu'ils ont faite qui a généré énormément d'enthousiasme dans un premier temps, et dont l'enthousiasme est un poil retombé quelques jours plus tard, c'est le WebM, qui est un standard de vidéo pour le web que Google a ouvert complètement et a déclaré « Ce standard vidéo est ouvert et vous pouvez l'utiliser gratuitement et il est destiné à remplacer tous les autres standards vidéo sur le web » et encore une fois, totalement gratuitement. Parce que les standards qui existent aujourd'hui, comme le HTML5, mais le H264, sont des standards qui sont gratuits pour les utilisateurs finaux, en quelque sorte, mais payants pour les éditeurs. Donc, quand Apple crée son navigateur Safari, et que ce navigateur supporte le H264, donc les vidéos sur Internet, il doit payer au consortium qui possède ce codec, ce standard, une somme assez importante. Et des gens comme Firefox, comme Mozilla, qui sont très attachés au web ouvert et gratuit, disent « Attention, peut-être que cette année, la licence coûte seulement, entre guillemets, 5 millions de dollars, mais l'année prochaine, on ne sait pas combien le consortium va vous demander pour utiliser ce standard. Donc, attention, nous, on veut quelque chose d'ouvert. » Arrive Google qui dit « Très bien, on vous propose ce standard WebM qu'on a acheté récemment. » On le met entièrement gratuit, tout le monde peut l'utiliser et on est déjà en train de convertir toutes les vidéos sous YouTube à ce standard. Donc, pas de question de conflit entre Apple, Mozilla, Microsoft. Tout le monde se met derrière ce standard ouvert qui est de bonne qualité et qui est gratuit. Et comme ça, la question est réglée. Ça facilite l'utilisation de la vidéo sur le web. Et donc, le web s'en trouve bonifié et tout le monde est content. Et Google en premier, bien sûr, puisque Google veut que tout le monde utilise le web. Là, après cette annonce, j'ai vu une quantité de tweets invraisemblables, super heureux, et moi aussi, je me suis dit, ça y est, le problème de la vidéo sur le web est résolu, tout va bien. Deux jours après, on se rend compte que ce système, enfin, ce standard WebM, et enfin, on s'en rend compte, disons que les gens le savaient déjà, mais on en discute un petit peu plus, et on comprend que WebM est basé sur le codec VP8, qui lui-même est très très proche de H264. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a énormément de gens qui vont s'intéresser de très près à ce nouveau standard gratuit, qui vont faire des procès extrêmement coûteux et qui vont dire « ce codec ressemble trop au nôtre, il copie des... j'essaye de simplifier les choses, hein, mais il copie des fonctionnalités, enfin des algorithmes de nos codecs, donc vous devez nous payer des licences, des frais de licence. » Et donc, tout à coup, ce codec se retransforme en codec dangereux, entre guillemets, ce qui s'appelle Patent Encumbered, donc dangereux parce qu'il tombe sous le coup de licences et de patentes. Et donc, les gens se disent « Ah bah finalement, peut-être que c'est pas si rose, peut-être que c'est pas si beau. » Et on n'est pas certain de devoir utiliser ce codec-là.
Retour à la case départ.
Voilà, un petit peu.
Donc c'est vraiment ça.
Hein. Ouais. C'est un petit peu décevant, mais je crains que ça soit... Alors évidemment, il y a Google derrière, donc ça fait moins peur quand il y a Google derrière, parce qu'on se dit qu'ils ne vont pas se coucher en deux minutes non plus. Mais pas super.
Bon, moi, très franchement, c'est bien de lancer un nouveau format, tout ça, c'est... Mais regarde juste un truc. Aujourd'hui, en fait, si le H264 s'est imposé, c'est parce qu'aussi, toutes tes caméras, tout ce que tu... Même, tu vois, ton téléphone, en fait, décode le H264 de manière hardware, en fait.
Ouais.
Je suis pas certain que demain, tous les appareils vont changer et...
Ça serait l'idée, hein, si ça... Si
je sais bien que ça serait l'idée, mais aujourd'hui, regarde, le H264 tient toutes ses promesses. Bonne qualité. Et puis au final, si tu dois payer aussi des royalties à Google, bon ben, je vois pas.
L'idée c'était d'être entièrement gratuit. Google l'a ouvert.
Oui. Voilà, mais il est ouvert, mais il faut payer une licence.
Ah bah non, il n'y a pas de licence pour le fameux WebM, là.
Du tout. Ah ils bah vont pas...
Non, il n'y a pas de licence, justement. L'idée, c'est de l'offrir à la communauté du web.
Fantastique.
T'es pas convaincu, hein, Cédric.
Non, je suis pas convaincu, parce qu'aujourd'hui, tous les appareils décodent le H264 en natif, que ce soit ton téléphone. Enfin, moi, je produis du podcast, et aujourd'hui, je vois bien que... Enfin, je fais que du H264, hein, pour les iPods, pour les iPhones, pour les iPads, pour les Apple TV, mais il n'y a pas que dans la vie, hein, puisque sous Android aussi, c'est du H264, hein, qui est décodé nativement. Je sais pas. Franchement, tu vois, même les logiciels professionnels, moi, je monte tout avec Final Cut, et j'ai tout en H264, quoi. Enfin, j'encode pas en autre chose que ça. Donc, je sais pas. Je me fais pas l'idée de devoir, en fait, réencoder dans tous ces formats-là, quoi.
Enfin, je comprends.
Moi, ça m'enchante pas, en fait. C'est tout ça. Après, je trouve dommage que l'H264 soit pas ouvert, je suis d'accord. Ça m'enchante pas plus que ça.
Pour être parfaitement honnête, le H264, la manière dont il fonctionne, en schématisant un peu, c'est un peu comme fonctionne le MP3. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah mon Dieu, le H264, c'est pas ouvert, donc c'est l'horreur, donc c'est le capitalisme débridé et on va tous se faire bouffer. » Mais le MP3 fonctionne comme ça aussi, donc... Et le MP3 fonctionne très bien pour tout le monde.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, bon, voilà, il faut... Franchement, moi, ça m'a pas transcendé, quoi. Voilà.
D'accord. Ok, bon, sur cette note un tout petit peu tristoune de Cédric, on referme la page Google I.O. qui a été un petit peu longue, à moins que Loïc ait un truc à ajouter, mais je pense que, on a
À part le buzz qui a ouvert ses API, quand même, hein. Ça c'était.
Ah bah vas-y, dis-nous quelques. Bah oui, forcément sur. Bah toi, ça t'intéresse particulièrement.
On était sur scène à Google I/O. Pas moi personnellement parce que j'étais au Japon. Pardon d'étaler ma vie jet-setteuse cette semaine.
Bah vas-y.
J'ai fait quand même San Francisco, Londres, Tokyo, Paris en 8 jours. Ce qui m'était jamais arrivé. Mais bref.
Bravo les émissions de CO2. Hein.
Ça donne une sorte de. C'est très intéressant les réactions de ton corps parce que, comme il est complètement paumé en termes de jet lag, en fait, il n'y a plus de. Bref. Et donc, on était à Google.
Non, mais vas-y, parle-nous de ton corps, Loïc.
Voilà. Et donc. À Google I/O, Buzz a ouvert ses API, c'est-à-dire que Buzz n'offrait pas la possibilité aux applications comme Sismic de l'intégrer à l'intérieur. Et donc, c'est chose faite. D'ailleurs, on l'a lancé dans Sismic Desktop, donc 2, le nouveau, et Sismic Web. Et on
J'attends que le podcast se termine pour installer Silverlight pour pouvoir installer Sismic 2 parce que j'avais jamais installé.
Ça va prendre 2 secondes. Hein. Ça va prendre 2 secondes.
Il faut redémarrer. Tu es sous Windows.
C'est pour ça que je veux pas le.
Je ne crois pas en fait. Bon, je crois qu'il faut juste redémarrer le navigateur. Peu importe.
D'accord.
Et donc Buzz en fait c'est rapproché encore plus de Twitter.
Ouais.
En séduisant son écosystème, puisqu'on n'a pas été les seuls, il y a plusieurs applis qui y ont intégré. On a d'ailleurs un build de Sismic pour Android avec déjà Buzz dedans, et dans 15 jours, on va avoir Google Buzz au même titre que Twitter intégré dans notre application Android. Et ça, c'est quand même big news, parce que leur but, c'est de concurrencer directement Twitter. Si vous pensez au contexte de Twitter qui traite assez mal son écosystème en ce moment, d'application, eh bien, Google est assez rassurant. Si vous discutez avec l'équipe de Buzz, tout va être ouvert. Ils vont vous laisser installer des serveurs Buzz. Il va y avoir une version Buzz Enterprise. Sincèrement, c'est assez séduisant. Et donc, le fait qu'on les intègre va peut-être, les autres applis aussi, va peut-être enfin les faire décoller. Et il y a quelques mécontents de Twitter qui sont pas très contents de leur manière de fonctionner, ils sont pas du tout contents aussi de Facebook, comme vous le savez, c'est une autre conversation sur la confidentialité. Et donc, il y a pas mal il y a beaucoup d'intérêt autour de Buzz, et moi, je vois pas mal d'influenceurs américains qui s'y mettent comme outil principal, en fait, en disant, fuck Facebook, nous, on fait du Buzz. Et donc, à voir, mais c'était big news, en tout cas, pour les développeurs, parce qu'on a tout, on a ce qu'on appelle le firehose, c'est-à-dire aussi tout le tuyau de données intégrale si on le souhaite. On a des API qui sont très très puissantes avec des choses qui sont mieux que Twitter. Il n'y a pas de n'y a pas de limite de caractère, y a les photos sont natives, les commentaires sur les notes, moi je trouve ça très bien, comme Facebook, les likes, c'est beaucoup plus similaire que Facebook de plus en plus que Twitter. Donc bref, c'était quand même une des news de Google I.O., en tout cas pour nous. Et c'était assez intéressant, je pense.
Ah ben c'est sûr que, comme on le disait, le web social a une importance absolument majeure. Et l'entrée de Google, toi Loïc, tu trouves qu'ils sont pas complètement plantés. Moi, je trouve qu'ils sont quand même bien. Moi, je trouve qu'ils se sont ramassés sur la sortie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas réussir à redresser la barre, mais c'est sûr qu'effectivement, s'ils sont en train de le faire, c'est quelque chose d'important, parce que de la même manière qu'il ne faut pas totalement oublier Microsoft, c'est pas parce que Buzz n'est pas hyper utilisé aujourd'hui que Google va pas rester derrière, parce que c'est essentiel au développement de la société, puisque le web social est important pour l'avenir. Donc ils ne vont pas l'abandonner, c'est évident. Et si on a des signes d'énergie dans ce sens-là...
C'est ça. Donc, en tout cas, nous, on les suit de très près et on intègre. On est très contents de le faire.
Bon, bah voilà pour Google I.O. Ça a été effectivement un petit peu long, mais c'était vraiment l'événement essentiel de ces deux dernières semaines. Et je vais conclure les sujets principaux de l'émission avec cette nouvelle sur Facebook. Alors, en dehors du fait que les questions de vie privée, comme vous le savez, certainement si vous avez suivi les news, se sont transformés en une sorte d'histoire monumentale pour Facebook, avec une première page sur le magazine Time, un article dans le Washington Post de Mark Zuckerberg, le président de Facebook, qui explique qu'ils vont beaucoup simplifier les paramètres de vie privée parce que tout ça est très important pour eux, etc. Enfin, c'est devenu une sorte de monstre de relations presse et dans les médias que Facebook ne pouvait plus ignorer et qu'ils vont visiblement corriger. Donc on aura certainement plus d'informations d'ici peut-être deux semaines à ce sujet. Donc en dehors de ça, il y a une autre nouvelle extrêmement importante, c'est par rapport à ce nom dont vous parlez, la dispute entre Facebook et Zynga, donc tous les petits jeux Farmville, Mafia Town, Mafia Wars, et toutes ces horreurs qui vous polluent la vie sur Facebook. Et bien figurez-vous que Facebook et Farmville, enfin et Zynga sont arrivés à un accord pour 5 ans, on ne connaît pas les détails, mais ce qui est sûr, c'est que Farmville n'est pas prêt de quitter Facebook, et pour l'un comme pour l'autre, c'est certainement le jackpot, parce que cette union ne peut être que bénéfique pour tous les deux, tellement ça marche bien. Donc voilà, la dernière info, c'est que Zynga n'est pas prêt de quitter Facebook.
Ah, oh, mais c'est génial ce que tu annonces, parce que ça va être une raison de plus pour supprimer mon profil Facebook.
Bah écoute, tu seras pas le seul, parce qu'il y a énormément de gens qui sont en train de supprimer.
Bah, c'est des conneries, s'arrêter.
Non, mais de toute façon.
Il y a 10 000 Gus qui se sont déclarés pour. Attendez, il y a 500 millions de membres Facebook, il y a 10 000 Ulu Berlu qui ont annoncé qu'ils allaient supprimer leur profil Facebook. Il y en a 3 qui vont le faire pour de vrai. Faut arrêter avec les...
C'est pas Facebook le problème,
c'est vous le problème qui n'êtes pas capable d'aller changer vos... Si vous voulez que ce soit confidentiel, vous y allez, ça prend 2 minutes.
Tu peux pas dire que c'est pas compliqué quand même sur Facebook. Les paramètres de vie privée sur Facebook sont hyper compliqués.
Et moi, ça m'a jamais concerné parce que je pense que tout ce que vous mettez sur le web, c'est pas privé.
Je suis d'accord. Mais
donc, y compris un mail. Si je t'envoie un mail, tu peux le publier sur un blog en 2 secondes. Et même si je t'en ai pas donné l'autorisation, c'est juste un fait. Et donc, les gens... En fait, c'est plus un problème de s'habituer. Et que les gens ne comprennent pas que quand ils balancent une photo de eux beurrés dans une soirée sur Facebook, en réalité, ça n'a absolument rien de privé. Et c'est ça le problème. Ouais. Le problème, c'est pas... Et donc, je trouve que c'est vraiment... On tire sur un truc qui est magnifique. Facebook, c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait une note et une vidéo où j'ai défendu Zuckerberg et j'en ai pris plein la gueule et je m'en fous parce que ils ont redéfini la manière dont on est connecté en ligne. C'est juste que les gens ne savent pas. Voilà, c'est tout.
J'ai deux commentaires sur ce sujet. D'une part, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que l'approche de la vie privée de Facebook soit bonne. Je trouve qu'ils ont mal amené les choses, que leurs paramètres sont trop compliqués et qu'ils n'ont pas demandé aux gens s'ils voulaient partager les choses alors qu'avant elles étaient privées. Et ça, je trouve ça répréhensible et je suis convaincu que Zuckerberg, qui est brillant et qui a fait quelque chose d'absolument génial avec, avec la... Oula, j'ai encore mon écho. Qui a fait quelque chose d'absolument génial avec cette histoire de bouton like pour englober l'ensemble du web. Je suis convaincu qu'il aurait dû au minimum réfléchir plus à la manière dont c'était implémenté. Et mon autre commentaire, c'est facebook.com/notepatrick. Allez devenir mon ami là-bas parce que Facebook est l'avenir et de toute façon, je ne vais pas quitter Facebook demain. Il est évident qu'il faut être sur Facebook et que Facebook est extrêmement important. Donc voilà, les deux aspects de la chose. Ah, je n'ai pas eu un énorme succès avec mon commentaire.
Moi, je fais une minute de silence.
D'accord. Non, mais enfin, il est évident que. Enfin, ceci dit, quand même, Loïc, tu peux pas nier que ça commençait à prendre pas mal d'importance cette histoire.
Et non, c'est, les utilisateurs s'en foutent, c'est non, que du buzz.
Chez les utilisateurs finaux, je suis d'accord. Mais
oui, c'est, mais alors,
ça commence avec ça commence avec les...
ça parce que dans la Silicon Valley, on a décidé que c'était pas bien ce qu'avait fait Mark Zuckerberg et tout le monde suit derrière. Et c'est n'importe quoi. Je dis, je le redis, je le dis. Et l'utilisateur final, c'est-à-dire ma mère, qui est sur Facebook maintenant, ça a pris un certain temps, mais maintenant lié, ne verra pas la différence. Et c'est tout. Ouais. Il faut juste expliquer à ma mère que ce qu'elle met sur Facebook, c'est public, c'est tout. C'est pas un problème de supprimer son compte.
Bon, écoute, voilà. on est effectivement. Moi, je pense quand même que. J'étais d'accord avec toi au début, je trouve que ça commençait à prendre une ampleur qui aurait pu faire mal un petit peu à Facebook, mais bon, de toute façon, je pense que c'est bon de se battre pour les principes, et ça a fait bouger un petit peu au final Zuckerberg, et on aura des paramètres plus simples pour contrôler ce qui est publié. Mais il n'empêche que moi, effectivement, bon, je me répète, mais moi, tout ce que je mets sur Facebook, que ça soit sur mon compte public ou privé, je pars du principe que ça pourrait être public, donc je mets pas de trucs... embarrassant, enfin j'essaye en tout cas. Donc effectivement, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est partir du principe que tout peut être public potentiellement, donc mais faites pas de conneries quoi.
Je vais te taguer sur 2-3 photos, tu vas voir Patrick, c'est...
Bon, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule moi. Allez, on passe à notre partie rumeurs et news. Je vais transformer un tout petit peu la manière dont ça se passe pour aller un petit peu plus vite et rendre ça un petit peu plus ludique. Ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer en une phrase la news dont je veux parler. Et vous devez, enfin l'un de vous, si vous avez quelque chose à dire sur le sujet, vous devez dire en une phrase ce que vous en pensez ou votre commentaire. Donc je vous laisse, okay. Après avoir dit ça, 2 secondes pour répondre et puis après je passe à la suivante.
Fonce.
Ok. YouTube est passé à 2 milliards de vidéos servies par jour.
Extraordinaire. Et c'est un moyen de créer une marque absolument sous-exploitée. Moi j'ai 2000 vidéos par jour vues en moyenne sur mon channel YouTube, Loïc.tv, et je suis en train d'utiliser de plus en plus parce que c'est extraordinaire la vitesse à laquelle ça se propage et comment vous pouvez l'utiliser.
Je suis tout à fait d'accord.
Moi, j'ai une phrase aussi. Quand est-ce que YouTube nous ouvre un compte éditeur là, pour NoWatch TV pour que je puisse publier des vidéos de plus de 10 minutes?
Non, mais tu sais, le truc à faire, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on fasse des vidéos de moins de 10 minutes pour avoir un channel qui ressemble à quelque chose.
Mais tu leur demandes ça, ils te le font tout de suite.
Bon. Non, ils nous ont dit d'abord mettez des vidéos, et il faut qu'elles soient vues et ensuite on vous l'ouvre.
Ah bon? Ah oui. D'accord.
Mais bon, moi, comme les vidéos font une heure, forcément je peux pas les mettre.
Mais non, donc... mais on va faire des petites vidéos de promo, on va faire des trucs.
Ok.
C'est prévu. Bon, bref, AdSense, donc Google pour les pubs, il donne 68% des revenus aux éditeurs et il garde 32% pour eux.
Ouais.
Ok.
Voilà.
D'accord. Bon, c'est un chiffre c'est qui bien. Avait été resté, qui était gardé, qui était resté secret pendant très longtemps, et ils l'ont enfin dit dans l'esprit d'ouverture et de clarté, selon leur dire. Donc voilà, une info en passant.
Invérifiable, mais en passant, c'est génial.
S'ils le disent, c'est quand même vrai a priori.
Oui, bien sûr.
D'accord. 0.facebook.com, on parlait de Facebook, ils ont passé un deal avec des dizaines d'opérateurs de téléphonie mobile dans des pays principalement en voie de développement, pour que l'adresse 0.facebook.com soit gratuite depuis les téléphones, pas vraiment smartphones, mais téléphones qui sont capables d'aller un peu sur le web. C'est une version qui est uniquement en texte, ou 95% en texte, qui est gratuite pour tout le monde, y compris dans les pays en voie de développement, dont les opérateurs de téléphonie mobile ont passé un accord avec Facebook.
Voilà, Facebook sur le web, c'est génial.
Non, c'est bien ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est difficile et c'est bien parce que ça va donner accès à des gens qui n'avaient pas des forfaits illimités.
Oui, mais finalement, c'est du web, quoi, en fait.
Non, mais ouais. Là où c'est extrêmement important...
Non, mais
important,
c'est gratuit, c'est ça qui est fort.
Mais ouais.
Oui. Enfin, c'est gratuit. Chez quel opérateur francophone?
Non, mais pas en France, c'est surtout pour les pays en voie de développement, et c'est ça qui est important.
Pour les pays d'Afrique et autres.
Voilà, dans les pays en voie de développement, t'as pas un accès facile au web, parce que les gens ont pas de d'ordinateur.
Non, ils ont des Nokia.
Difficilement accès à un ordi. Eh ben exactement. Eh ben sur ton Nokia. Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai. En Inde, ils ont plus de 90% du marché.
Exactement. Et donc, ça veut dire que les téléphones portables sont extrêmement répandus. Et là, Facebook donne accès à une partie. Alors évidemment, c'est pour leur bien, c'est pour le bien de Facebook, c'est pas pour faire plaisir au monde. Mais
on avait dit une phrase. Accès.
Pardon. Alors,
c'est pas pour le bien du monde.
Du monde, mais en attendant, ça donne quand même accès à une partie importante du web et gratuitement à toute une partie du monde qui n'y avait pas accès avant. Et moi, je trouve ça bien.
Yes. Bon,
c'est une phrase à rallonge, mais elle est là quand même. Visa In2Pay, c'est un système qui va vous permettre de payer avec votre téléphone portable, avec
un iPhone, ouais.
Un iPhone et votre carte Visa. Enfin, c'est un truc un peu. Bizarre, ça vous promet de payer avec votre iPhone sur votre compte Visa.
Ouais, en fait, c'est du paiement sans contact, comme le Pass Navigo pour les Parisiens. Ouais. Sauf que c'est ton compte Visa qui est connecté dessus. Et en gros, tu passes au McDo ou au Starbucks et tu passes ton téléphone sur une petite borne et ça débite ta Visa, quoi.
Ouais.
Bon. C'est, et puis le problème, c'est qu'il faut rajouter un boîtier que tu mets sur ton bel iPhone. Donc voilà.
Ouais,
ça, c'est comme quand le truc téléphone de princesse. C'est comme le créateur de Twitter, ça, Square.
Non, parce que Square, c'est pour faire payer les gens avec leur carte bleue. Ouais. Alors que là, tu payes en passant ton téléphone sur la borne.
Là, tu payes ton parking avec. Okay.
Voilà. Disons que ça marchera le jour où toutes les bornes de carte bleue du monde seront équipées de ce lecteur. Là, oui, ça sera pas mal.
Et les téléphones aussi, bêtement, parce que là, il faut racheter un boîtier que tu mets dessus. Et franchement, c'est très, très laid.
Oh, bah, ça sera bien quand ça fonctionnera. Ouais.
Oui.
Alors, un petit dernier. Le parti pirate en Suède héberge les serveurs de The Pirate Bay. Comme vous le savez, The Pirate Bay était sous le coup d'une décision de justice qui les intimait de fermer leur activité. Et donc, les hébergeurs Internet ne voulaient plus les héberger. Et ben, le parti pirate, qui est un parti qui a des députés au Parlement suédois, a décidé d'aller dans l'action et d'héberger les serveurs de The Pirate Bay. Donc, ils tournent toujours hébergés par un parti politique. Intéressant, non ?
Ouais.
Passionnant.
D'accord. Bon, bah écoutez, devant tant d'enthousiasme, on va passer à notre conclusion avec la statosphère de Guillaume, qui nous parle aujourd'hui, encore une fois, de réseaux sociaux. Ça marche pas.
Bonjour à tous. Parlons aujourd'hui des questions de sécurité servant à réinitialiser un mot de passe oublié. Vous allez voir que ces questions doivent être choisies avec précaution.
Merde, c'est pas les réseaux sociaux.
Petit républicain aux États-Unis s'était vu pirater son compte webmail car la réponse à la question « Où avez-vous rencontré votre conjoint ?» était facile à trouver sur le web. Il était arrivé la même chose à deux députés français. La réponse à la question « Quelle est la ville de naissance de votre mère ?» était trouvable sur le site de l'Assemblée. Or, des études ont démontré que 20% des internautes pouvaient deviner les réponses aux questions de sécurité de leurs amis. Et celle du nom de jeune fille de votre mère est particulièrement vulnérable. 30% de ces noms de famille peuvent être obtenus en consultant des archives publiques. Pire, un hacker américain a environ une chance sur 80 de trouver la réponse en se basant sur les noms les plus courants. En Corée, un hacker aurait 40% de chance que le nom soit Kim, Park ou Lee. Aussi, si le nom de jeune fille de votre mère est Martin, Bernard, Dubois, Thomas ou Robert, les 5 noms de famille les plus portés en France, alors méfiez-vous et préférez une autre question secrète. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. À bientôt.
Merci, merci Guillaume. Et comme vous le savez, vous retrouvez toutes ces informations et bien plus encore, plus sur statosphere.fr, son site. On ne le répétera jamais assez. Si vous, vous mettez une question de récupération de mot de passe super facile, eh ben, ça équivaut à ne pas mettre un mot de passe parce que c'est cette question qui va être le point faible dans votre chaîne de sécurité. Donc faites gaffe à ça, c'est très important. Dis-moi, Cédric, oui. le nom de jeune fille de ta mère, c'est quoi?
Okay, non, mais d'accord. J'utilise même pas cette question-là.
Bien sûr. Il faut, alors, le meilleur moyen, tiens, c'est de poser une question et de mettre une réponse qui n'a aucun rapport. Mais sachez-le et retenez-le.
Il n'a aucun rapport.
Alors, décidément, les échos s'affolent. Donc voilà, bon, merci à Guillaume. Et on passe maintenant à la petite revue iTunes. Bah, vous savez quoi, je vais même pas faire de revue iTunes parce que il est tard et on est tous fatigués.
La seule chose,
tu crois? Bon, ouais. Ok, je vais juste lire un commentaire sur iTunes. GMRI, alors GMR en majuscule et I en minuscule, nous dit un podcast comme on en voudrait beaucoup, une équipe de passionnés de la chose technologique qui décrypte l'actualité avec humeur, sans verser dans la guerre de clochers pour présenter un panorama complet sur un ton enjoué et jamais dogmatique. Bravo, continuez, je suis fan. Merci à toi. Et si, comme Jérémy, vous voulez nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous sert bien puisque ça nous permet de remonter dans les classements. Et ça, c'est toujours utile pour être découvert par plus de monde encore. Donc, si vous avez deux secondes, passez sur iTunes, laissez un commentaire. Ça nous fait très plaisir. Bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission, donc je vais quand même demander Loïc de nous parler un petit peu plus longuement de Sismic. Enfin, on en a déjà quand même parlé, mais peut-être qu'il y a des gens qui savent pas exactement de quoi il s'agit, ils étaient perdus. Aide-nous, qu'est-ce que Sismic?
Écoute, pour ceux qui sont perdus, c'est une application qui permet d'avoir tous vos réseaux sociaux au même endroit. C'est une sorte d'écran de contrôle. Et donc Sismic notamment regroupe Twitter et Facebook en général, ça dépend de nos produits. Et puis de plus en plus maintenant, on va avoir LinkedIn et Google Buzz et puis Foursquare pour ceux qui aiment bien aussi la géolocalisation. Et on fait ça sur Mac, sur PC, sur Web, sur Android, sur BlackBerry et depuis vendredi dernier sur iPhone. Donc vous pouvez chercher Sismic, ça s'écrit S-E-S-M-I-C. Sur l'App Store, et puis laisser 5 étoiles, ça me fera très plaisir. Parce que les étoiles, c'est très important au début, tout ça.
C'est clair.
Et il y a un enfoiré, je voudrais d'ailleurs le remercier publiquement,
oui.
Qui nous a mis une étoile parce qu'on n'était pas sur l'iPad. Ce qui est quand même extraordinaire, parce qu'il note une appli iPhone, et c'est dégueulasse. Les gens ne se rendent pas compte comment ça... Tu vois, tes développeurs, tu bosses pendant des mois là-dessus et le type il te met une étoile parce que t'es pas sur l'iPad alors ça énerve. Bref, voilà ce qu'on fait et ouais. On a à peu près, on a eu 4 millions de téléchargements, 1 million de...
4... Attends, 4 millions sur iPhone?
Non, pas depuis vendredi, oh, non,
putain,
ça
tu m'as
serait
fait
bien.
Peur là.
Non, 4 millions au total, mais l'iPhone démarre très fort, on a 1 million d'utilisateurs enregistrés. Et je dirais, je sais pas encore, on est en train de faire le système de stats, mais 200 ou 300 000 chaque jour, donc c'est quand même significatif. Et 20% de croissance mensuelle. Donc, quand j'étais venu l'an dernier, je me souviens plus, j'étais un peu stress. Et là, ça va mieux.
D'accord.
Voilà, ça marche bien.
Très bien. Bah écoute, en tout cas, moi, j'encourage tous les auditeurs à essayer au moins l'appli Sismic sur iPhone. Enfin, moi, je parle d'iPhone parce que c'est ce que j'utilise. Parce que, comme je le disais, Sismic Desktop, je m'en sers tous les jours et je l'aime beaucoup.
Et t'aimes bien commence... sur iPhone ?
Alors, sur iPhone, je commence à l'utiliser. En fait, j'étais vendredi dans le bus, dans le métro, en train d'aller au boulot. Quand j'ai lu ton tweet qui annonçait la disponibilité de l'application Sismic, et j'essayais tellement de la downloader depuis dans le métro, enfin évidemment en Edge ça marchait pas, que j'ai raté ma station et je suis sorti et coup de bol à l'extérieur, enfin à la station suivante c'était à l'extérieur, il y avait le réseau 3G donc j'ai pu la downloader et donc je m'en sers un petit peu depuis le week-end et je suis en train de m'en servir surtout pour consulter, je poste pas encore avec et c'est ce que je fais systématiquement quand il y a une nouvelle application.
Mais cette particularité c'est le swipe, en fait tu peux passer très facilement d'une recherche à une autre et créer plusieurs, si tu gères plusieurs comptes Twitter, mais pas uniquement juste de passer d'un d'une recherche sur un actu à une autre.
Bah, moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est qu'elle fait Twitter et Facebook à la fois.
Absolument.
Donc, moi, comme c'est les deux réseaux dans lesquels je vis, et moi, à vrai dire, j'ai une demande un petit peu particulière.
Et poste sur les deux à la fois aussi. Tu peux envoyer la même photo ou le même update aux deux. Ouais. Et on a aussi intégré Ping FM qui supporte 40 réseaux sociaux ou services. Donc, tu peux aussi updater, par exemple, ton Google Talk avec ou ton LinkedIn avec. Mmh. Et ça, c'est quand même assez agréable.
Tout à fait. Et tiens, est-ce que vous faites pas les pages de le post vers la page de fan sur le client iPhone?
Tu peux le faire avec Ping FM. Donc tu te crées un compte Ping FM, tu rajoutes ta page Facebook et ensuite tu rajoutes Ping FM. Je sais que c'est un peu compliqué. Les pages Facebook, c'est une des prochaines features qui arrive.
Ouais.
Et puis pour les gens dans le chat qui demandent le push, ils peuvent le faire avec une application qui s'appelle Boxcar qui est gratuite pour un service. Donc on installe Boxcar. On rafraîchit la liste des services et hop, on a du push avec Sysmic et on l'aura aussi en natif, mais on peut pas tout. C'est dur de tout. Ça vient en natif, Lionel M. Ça vient très très vite. J'emmerde l'équipe tout le temps, mais les limites de mon autorité s'arrêtent à leur possibilité d'arrêter de dormir.
Donc en fait, la chatroom te demande de demander que les développeurs arrêtent de dormir.
Voilà, je suis en train de me faire engueuler dans le chatroom. Mais c'est super sympa, c'est vraiment très agréable de voir l'intérêt qu'il y a autour de toutes ces applis.
C'est clair. Bah, écoutez, en tout cas, essayez-la et n'hésitez pas à venir mettre une note sur le store français de l'App Store pour Sysmic aussi. Nous, c'est une application qui nous plaît. En plus, Loïc est quelqu'un de sympathique, donc je ne cache pas du tout le fait que ça joue dans les choses. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça me fait plaisir.
Merci.
Dis-moi, Cédric, où peut-on te trouver sur l'internet?
Sur l'internet mondial. Alors, on peut me retrouver sur mon Twitter, Cédric Bonnet, tout attaché.
Ouais.
On peut me retrouver
sur. Que tu consultes sous Sysmic, bien sûr.
Alors, en fait, non.
Damned.
Eh oui, mais tu vois, je le reconnais. En fait, j'ai un Motorola Milestone et comme téléphone principal. Et jusqu'à présent, j'utilisais l'appli native. Twitter, honte sur moi. Mais en fait, je m'en sers très très peu puisque c'est juste pour tweeter une photo de temps en temps. Sinon, en fait, je tweete maintenant depuis mon iPad ou alors depuis mon client, c'est Tweety que j'ai sur Mac et TweetDeck aussi des fois. Enfin bon,
j'ai pas
si tu veux de clients attitrés. J'avais essayé au tout début Twitter sur Sysmic sur Android, mais quand j'ai changé de téléphone, en fait, à l'époque, venait de sortir d'autres clients que j'ai voulu essayer et puis voilà quoi.
Dis-moi, est-ce que le Sysmic Web fonctionne sur iPad?
J'ai pas essayé.
Enfin, il va s'afficher parce que c'est un navigateur comme un autre. Mais le problème, c'est que pour scroller dans les colonnes, il faut y aller à deux doigts.
Ça marche.
Parce que sinon, tu fais scroller toute la page. Ouais. Donc, il faut mettre deux doigts. Donc, ça marche, mais c'est pas du tout optimisé. D'accord. Et c'est pas très agréable, sincèrement. Donc, on a une version iPad de Sysmic Web qui va arriver, que j'ai déjà là, et qui est très très chouette. Et ensuite, on va avoir une application iPad, bien sûr, native aussi, qui va arriver, parce qu'on est très fan de l'iPad. Chaque chose en son temps, mais ça arrive.
Bon, dis à tes développeurs d'arrêter de dormir, parce que mon iPad arrive en fin de semaine. Et j'ai besoin de... Comment ça, ou pas?
Est-ce que tu as reçu ton email comme quoi il
était
expliqué?
Oui, ça y est.
Bon. Et sinon, en fait, après, on me retrouve sur nowatch.tv. Voilà. Et geeking.fr. Bon, on est un peu moins actif dessus, mais voilà quoi.
Bah donc, si vous voulez regarder Geeking, c'est sur nowatch.tv.
Ouais, sur iTunes, tout ça. Et n'hésitez pas à laisser aussi des commentaires.
Ah non, mais ça suffit, t'en as trop. T'en as plus que moi, arrête. Ça m'énerve. C'est injuste.
Ah oui, mais j'y suis pour rien.
Hein. Mais si, parce que tu demandes. T'arrêtes de demander, il n'y en a plus. et ben voilà. Et puis, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Facebook. Si vous voulez voir toutes les mises à jour que je fais depuis mon Sysmic Desktop, qui sera bientôt Sysmic Desktop 2 Preview.
Ah, tu vas adorer. Dis-moi ce que t'en penses, mais c'est vraiment bien.
Je te dirai. Sur NotePatrick, donc twitter.com/NotePatrick ou facebook.com/NotePatrick, vous pouvez retrouver toutes les émissions audio du collectif, hein, du réseau NoWatch sur nowatch.fm. Et tiens, d'ailleurs, d'un podcast NoWatch.tv pour le coup, c'est Geeking. Le Lionel App Show.
Ah non.
Le Lionel App Show, où vous pourrez voir plein d'apps, plein de reviews d'apps pour iPhone et iPad, j'espère, si Lionel fait bientôt la review iPad. Bah tiens, il est dans la chatroom. Tu nous feras un petit test de Sismic pour iPhone, Lionel, dans le prochain épisode.
Ouais, dans le prochain,
ça marche, merci. Et voilà. Et,
merci,
et donc voilà, sur nowatch.fm, je m'y perds. Et dernière chose qu'il faut dire, c'est que Loïc sur Twitter, c'est...
@Loïc.
Voilà. Ah pardon, je dormais. @Loïc, L-O-I-C, il n'y a pas de tréma.
D'accord.
Et c'est pareil sur Facebook, c'est facebook.com/Loïc, dont je suis très fier parce que normalement on peut pas avoir 4 lettres, mais comme j'ai des potes bien placés,
ouais, voilà. Tricheur.
Et je n'ai pas réussi à avoir google.com/user/Loïc, mais j'y travaille de manière très très parce que voilà, parce que j'y tiens mon /Loïc, mais j'ai pas réussi sur Google encore, ça va venir.
Je comprends. Un autre endroit où tu voudrais que les gens aillent pour découvrir
TV, qui est donc où je publie quasiment une vidéo par jour, allez, 3 ou 4 fois par semaine sur YouTube, et ma chaîne YouTube approche les 2 millions de vues, ce qui me rend complètement heureux et surpris à la fois. Et tu parlais de YouTube tout à l'heure, moi je suis en train de vraiment le découvrir comme média, sincèrement, et comme réseau social, et c'est très 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 puissant. Si vous faites pas encore ça, vous avez l'air con quand vous faites des vidéos, mais c'est pas grave, c'est très efficace.
Je suis assez d'accord. D'ailleurs, attends, que je vois un truc tout de suite. C'est... Alors, si je passe... Excusez-moi, je meuble, parce que je suis d'accord que YouTube est important. Et ce que je voudrais dire, surtout à tous les gens qui nous regardent, c'est youtube.com/PatrickBeja, quoi. ok, bon bah écoutez, ça va le faire. Après cette salve de promotion, d'autopromotion totalement éhontée, on va vous dire un grand merci pour nous avoir suivis dans l'émission. Un grand grand merci à ceux qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure avancée de la nuit dans la chatroom. Et un grand merci à Cédric et Loïc d'avoir participé à l'émission.
Salut.
Merci à toi, c'était génial cet apéro du ce rendez-vous tech.
Et on vous dit donc j'oublie, si vous êtes sur Paris et que vous voulez aller à la sortie de l'iPad, on a rendez-vous avec tous les fans de l'émission Upload le 27, donc le jeudi.
C'est pas trop dur de faire ça 3 mois après tout le monde.
Ça y est, je sentais que ça allait nous énerver, c'est parti. Écoute, nous on a le 3G et le Wi-Fi en même temps. Bon, écoute, puisqu'on en parle,
vous allez payer 40% plus cher. Parfait.
Mais non, l'euro est descendu, donc c'est pas.
Bah oui, mais non, c'est pareil.
Ah, il fallait bien que ce soit taquin un peu. Merci Patrick, Cédric, et à très bientôt à tous.
À très bientôt à tous, et donc dans 15 jours. J'ai pas fini sur l'iPad. Le 27 à 22h devant l'entrée de l'Apple Store au Louvre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Rejoignez-nous, on se fera une petite retrouvaille sympathique. Donc merci à tous, rendez-vous dans 15 jours pour un autre épisode du Rendez-vous Tech. Merci à tous et ciao.